Et un, et deux, et un, deux, trois.
Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro.
Bonjour et bienvenue dans ce 18e cyclocast. Je suis Warthog.
Je suis Proc.
Je suis Grincheux.
Et aujourd'hui nous avons un invité, je vais te laisser te présenter.
Bonsoir, c'est Félix. J'ai été invité à ce podcast ce soir pour parler de voyage à vélo.
Eh ben, on va te cuisiner.
Je sais pas où est-ce que j'ai foutu les épices.
Bien, avant ta petite interview, on va enchaîner tout de suite avec les news. Je te laisse démarrer, Proc.
Non.
Ah oui, pardon.
Ah,
les
rétropédalages.
Vas-y, fais péter les rétropédalages. Vas-y, rétropédale.
Alors, tout d'abord, un petit rétropédalage rapide, parce que tout de suite après avoir mis en ligne le podcast numéro 17, il y a Mathieu, un Nantais, qui m'a fait remarquer que je m'étais complètement pris les pieds dans les pédales sur les dates du Nantes Cargo Bike Meeting, puisque ce n'est pas, comme je l'ai annoncé, le 4 juin, mais c'est bien le dimanche 5 juin à Nantes.
Tu t'es pas trompé sur le lieu, ça c'est
je
bon.
Je me suis pas trompé sur le lieu, je m'étais pas trompé sur le jour, mais je m'étais trompé sur la date.
D'accord.
Donc voilà, le Nantes Cargo Bike Meeting, c'est le 5 juin, le dimanche 5 juin, et normalement il y aura Mogor et moi, et puis après je sais pas si Proc et Warthog. Non, Warthog, toi tu préfères aller te la jouer à la flamme moyenâgeuse à Pérouge.
Moyenâgeuse, tu me provoques vraiment là.
Oui.
Ouais, tu me provoques vraiment. Non, moi je pense que je serai indisponible parce que j'ai d'autres projets, mais...
Je pense qu'il sera indisposé, moi surtout.
Hein ?
Non, ouais.
Et aux dernières nouvelles, Mogor est assez partante pour rentrer avec moi à vélo.
Waouh, qu'est-ce que vous faites des mioches ?
Waouh.
Mais on rentre avec les mioches aussi.
Ah merde.
Toujours, ça n'a pas changé depuis un mois.
Par la poste. Et hein. Laissez-les à Nantes en fait.
Ouais, on te les met dans le train, on te les confie à l'arrivée.
Ouais, d'accord, ouais, ok. Je serai à Pérouge.
Ah, c'est pour ça, okay. La flamme médiévale.
Oui.
Ouais. Voilà.
Alors, si tu veux savoir, c'est le grand jeu de Mogor et de Grincheux de me provoquer en utilisant le terme moyenâgeux, Félix. C'est un terme qui est une impropriété, ça n'existe pas, moyenâgeux.
Ouais, soi-disant, il est historien, tout ça, machin, bon.
Hein. Et d'ailleurs, dans la VO...
Historien, m'insulte pas, je suis archéologue de formation.
Ouais, enfin...
La traduction dans Pulp Fiction dit moyenâgeuse, mais la VO dans la scène, après la scène hardcore de Pulp Fiction... C'est I'm gonna get medieval in your ass.
Voilà, medieval in your ass.
Voilà.
Bon, donc.
Et ben voilà, c'était ce premier rétropédalage.
Parfait.
Mathieu, on pense à toi.
Et j'ai un deuxième rétropédalage.
Oh là là.
Si je retrouve où je
l'ai
noté. Donc sur Twitter, un autre Mathieu, @mlafrange, m'a pointé du doigt une vidéo de EEV Blog, donc Electronics Engineering Video Blog. Qui maltraite notre ministre des City Walks, comme il l'appelle.
Oh putain la vache!
C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui le dit.
Eh, on pensait être trash avec notre propre ministre en fait. Hein.
Et également l'entreprise de BTP Colas pour l'annonce des 1000 km de route photovoltaïque. Pourquoi me direz-vous? Eh ben parce que c'est du fric foutu en l'air et il le démontre, calcul à l'appui, que ben, les routes solaires sont au mieux deux fois moins efficaces que des panneaux traditionnels. Et ont un coût qui va de 2 à 10 fois plus que des panneaux traditionnels. Sans même parler des coûts d'exploitation et d'entretien, parce qu'il faut câbler tout ça, et que bah, les voitures et les poids lourds qui roulent dessus, ça abîme et ça va demander de l'entretien.
Je regarderai avec plaisir la vidéo après.
Donc je vous mettrai la vidéo dans le billet. Donc juste pour développer un peu ce qu'il raconte, c'est tout en anglais, mais c'est sous-titré. Colas, donc filière du groupe Bouygues, est en situation aussi de quasi-monopole sur ce sujet et donc a dû présenter un joli PowerPoint à Ségolène qui s'est dit que ça allait être très bon pour son aura médiatique et ses voitures électriques et a donc sauté à pieds joints dans le buzz qu'il allait y avoir avec. Et ce qui représente également, sans nul doute, un très beau paquet de fric pour l'entrepreneur. Parce que, soit dit en passant, l'entrepreneur, vous savez combien de a mis en, enfin quelle taille a mis en place le Colas comme route de test en photovoltaïque?
Quelle taille de quoi? Quelle largeur? Quelle longueur?
Quelle superficie?
Aucune idée.
2 mètres carrés.
10 mètres carrés.
Ouais. Mètre carré.
Mètre carré. Non, mais je m'y attendais. Hein.
Bon, j'ai toujours pas compris techniquement comment ça marchait en fait. C'est-à-dire que
t'as une route à la place du goudron, t'as des panneaux photovoltaïques.
Ouais, mais le revêtement, c'est quoi?
Des panneaux photovoltaïques.
C'est du verre. C'est du verre, sauf qu'il est, il est granulé pour que ça accroche. Mais,
non, mais qu'on soit bien d'accord, en soi. Bah,
entre la déperdition liée au fait du revêtement et de la salissure du revêtement, le coût exorbitant par rapport à un panneau photovoltaïque traditionnel.
En fait, t'es en train de dire qu'il faut faire des pistes cyclables photovoltaïques.
Non, même pas. Faut poser des panneaux sur des champs sur des toits d'immeubles, sur des trucs comme ça. Enfin, des trucs comme ça se fait encore, enfin déjà aujourd'hui, et qui ont des panneaux qui ont des bien meilleurs rendements et qui sont beaucoup moins chers à installer et beaucoup moins chers à entretenir.
Mais 10 balles sur la question, je pense que oui, si on veut vraiment s'amuser à vraiment tout rentabiliser, on peut s'amuser à essayer de faire des panneaux photovoltaïques à la place des routes, mais c'est totalement annexe, quoi. C'est qu'il y a des questions bien plus importantes à régler avant, quoi.
Et pour ces chiffres-là, ils se basent sur les chiffres de l'année de recul qu'il y a aux Pays-Bas sur la route, la piste cyclable photovoltaïque qu'il y a aux Pays-Bas.
Ouais. Et bullshit institutionnel.
Et ils comparent ça à des champs de panneaux qui sont aux Pays-Bas, donc dans des situations identiques.
Des champs ou des pistes cyclables?
Non, ils comparent la piste cyclable des Pays-Bas à des champs de panneaux. Donc des trucs qui sont soit sur des toits d'immeubles, soit...
soit dans des vraies centrales solaires.
Des centrales solaires, mais qui sont sous la même latitude, donc avec le même taux d'exposition. Il n'y a pas à comparer un truc aux Pays-Bas avec un truc en Méditerranée ou en Algérie où forcément le taux d'ensoleillement n'est pas le même.
En somme, ils n'ont même pas encore allumé la mèche, on sait que ça va être un pétard mouillé, quoi.
Voilà, ouais, et qui va nous contribuer, nous coûter très cher.
C'était que ça.
Voilà.
Je pensais pas qu'on entendrait le micro. Bon, j'ai rien dit, oubliez.
Non, je couperai pas, c'est pas grave. Voilà, c'était mes rétropédalages.
Merci Grincheux. Eh bien, puisque les rétropédalages sont finis, on va enchaîner avec les news cette fois. Je te laisse attaquer, mon cher Proc.
Ouais, bien sûr. Alors, tout d'abord, parce qu'il m'a dit, j'ai fait une petite remarque sur sa news, et qui m'a fait avec un petit clin d'œil, ça fera une bonne news pour le cyclocast. Du coup, je ne pouvais pas m'en empêcher, sur Twitter. Panji Drama, qui m'a mis une petite annonce, projet de balade pour personnes âgées en vélo triporteur.
Je ne me sens pas concerné.
4 heures par jour. Le doyen du cyclocast, tu vois, il parle tout de suite. Cherche conducteur, ouais. Rémunéré, contacté.
Je vous connais, je prends de l'avance, hein, c'est tout.
Contacté à Ciulinetti. Voilà. Et du coup, Panji Drama, je lui fais sa pub. Vous savez qu'il y a des gens qui cherchent des conducteurs de triporteurs pour transporter des personnes âgées à Paris.
Alors, énonce bien le compte Twitter qu'il faut contacter.
At Ciulinetti, Ciuline2ti.
Voilà, je mettrai le truc, si tu penses à m'envoyer tes billets.
Je t'enverrai le billet. En l'occurrence, je l'ai mis sur le... je l'ai mis sur la liste.
En off, la cuisine, les gars, en off.
Oh non, mais c'est intéressant, la cuisine.
Non.
Donc, voilà.
Alors, là, du coup, si je comprends bien, c'est une boîte qui fait de la presta pour...
Les personnes âgées.
C'est à but récréatif, c'est de la balade.
C'est ça.
D'accord,
c'est ça. Okay. Voilà.
Moi, j'avais vu des... Alors, je me souviens plus du nom. J'avais vu des assos qui faisaient ça, justement, avec des triporteurs adaptés pour, balader des anciens et leur faire prendre l'air de façon ludique.
J'avais vu des vélos qui étaient adaptés avec la fourche et le cintre... qui était remplacé en fait par des montants arrière de fauteuils roulants, quoi.
D'accord.
Ça peut être sympa. Par contre, faut pas freiner trop fort.
Bah, je suppose que les anciens sont attachés. C'est sûr que si tu vires Mamie à chaque feu rouge, c'est compliqué.
On va lui mettre un casque.
ça fait penser à une chanson des Fatal Picard.
Laquelle?
Comment elle s'appelle? C'est Parkinson le glas.
Gérontophobie, monsieur.
Il y a une histoire de course de fauteuil roulant dans la maison de retraite et le premier gagne un pacemaker.
Non, mais le jour où on sera en fauteuil roulant, on aura des pneus de vélo.
Les chevals, ça passe.
Non, moi j'aurai des contis GP4 saisons, parce qu'il faut pas déconner non plus. ça accroche mieux sur le carrelage, sur le mouillé.
Monsieur fait son original. Ben voilà, donc voilà, Panji, tu m'avais dit ça faut une bonne annonce pour le cyclocast. Ben voilà, c'est fait, ça fait une annonce sur le cyclocast. Et je confirme, j'aimerais bien être parisien pour pouvoir me faire 4 ronds comme ça. Ça serait rigolo de pouvoir transporter des papiers des mamies.
Ah, même.
Les faire marrer.
Ouais, voilà. Ne serait-ce que, ouais, voilà, faire un truc avec les anciens où tu les sors, où tu les. C'est toujours. Je vais faire mon jeune qui aime les vieux. C'est toujours enrichissant, voilà.
Non, mais carrément, oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Et puis, voilà, souvent, c'est des populations qui ont peu de contact, à part la famille proche qui vient c'est pas ça. Forcément toujours les voir autant qu'ils l'aimeraient.
Voilà. Et quand tu sais établir des liens, tu te rends compte que c'est des gens qui sont très très marrants. Voilà. Tu peux facilement rigoler.
Puis, vu qu'ils sont vieux, ils ont sûrement déjà fait plein de conneries à vélo, donc.
Ah ouais. Voilà.
Merci, Poc.
De rien.
Alors moi je vais continuer sur l'activité physique avec une news que j'ai. Enfin j'espère que je me suis pas trompé. Normalement je vous en ai pas parlé et que j'aurais dû vous en parler il y a 2 ou 3 podcasts. Pratiquer une activité physique quotidienne d'une heure minimum améliore la capacité d'attention à l'école. Donc on sait que voilà l'activité physique. Oui mais je pense que ça n'est pas que pour l'école. Ça doit être bon pour tout. Mais c'est un résultat qui a été publié, un résultat d'une étude de Lilloise qui a été menée entre 2006 et 2007 et qui a été publié il y a quelques mois maintenant. Donc justement, ils avaient suivi des élèves en 2006-2007, donc certains qui ne faisaient quasiment pas d'activité physique, d'autres qui faisaient beaucoup de sport. Et ils ont fait cette étude, mais ils ont suivi un petit peu dans la durée, c'est pour ça que l'étude a été publiée assez tardivement. Ils ont vu que les élèves qui faisaient du sport étaient beaucoup plus attentifs et s'en sentaient mieux à l'école que ceux qui étaient beaucoup plus légumes.
J'aime bien cette étude parce qu'en plus elle vient quelque part en creux par rapport à une autre étude qui parlait des méfaits. Ça c'est mon ancien côté. Étudiant d'IUFM qui parle, mais sur les conséquences négatives de la télé avant d'aller à l'école. C'est très très négatif, les gamins sont dissipés, surexcités.
Sipés.
Tu vas tout nous les faire?
C'est un genre de religion, si tu veux. Je ne peux pas faire autrement.
Et en l'occurrence, j'aurais tendance à dire que les 20 minutes qu'on passe devant. Alors désolé, je suis un vieux con, moi à mon époque c'était Sonic the Hedgehog ou Cubitus. Hein? Non, GTO, je l'ai regardé beaucoup plus tard.
Non, c'est un jeu vidéo, c'est pas un dessin animé.
Le choc des générations.
Non, le jeu vidéo, c'est GTA.
C'est absolument
fabuleux.
Je vais corriger, GTA, c'est un jeu vidéo. GTO, c'est Great Teacher Onizuka, c'est un manga.
J'ai pas dit GTO, j'ai dit c'est un jeu vidéo.
Ah, pardon. Enfin bon, donc.
Branche ton sonotone, papy.
Hein? Non, mais Sonic, ils avaient fait une série
sûrement,
aussi.
Sûrement, mais.
Moi, j'ai regardé avant d'aller à l'école. Ouais, j'avoue. Moi,
mais lui, il avait le travail déjà, donc il avait arrêté.
Ah oui, c'est ça.
Ouais. Moi, j'ai joué chez les copains avec, sur une. Sur, c'était quoi Sonic? C'était une.
Master System.
Master System, oui.
Ouais, je l'ai eu. Mais donc voilà.
Ou sur Lynx.
Et donc, en fait, en l'occurrence, le bilan des courses, c'est que plutôt que de laisser vos gamins regarder la télé le matin, mieux vaut prendre un peu plus de temps et puis les amener à l'école à vélo.
Alors, j'illustre ça. Moi, la semaine dernière, j'étais à Cannes en déplacement. J'étais avec des collègues, donc j'ai fait que de la bagnole. Hein, donc, je passais de mes 160 km, 180 km hebdomadaires à zéro. Non, mais dites dehors.
Désolé, j'ai bougé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton.
Salaud.
C'est oui. Et donc, du coup, t'es passé de 80 à 90 kilos comme Yehuda Moon dans la voiture, tu...
En plus, on a fait... laissons les considérations, de tour de taille en dehors de ça, mais sur la fatigue, entre se taper 40 minutes de bagnole dans les bouchons, ça avance pas et tout machin, et une demi-heure de vélo d'habitude... En termes d'effet sur le moral et la forme, c'est sans commune mesure.
Et pour rajouter sur ce que disait Proc tout à l'heure, il y avait eu un truc qui est passé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps maintenant, où on avait demandé à des enfants de, je sais plus, 3 à 5 ans, de dessiner un bonhomme. Et ça avait été classé en 3 catégories selon le nombre d'heures par jour où ils regardaient la télévision. Et ceux qui regardaient la télévision plus de 3 heures par jour, je crois, c'était des bons hommes complètement, enfin, minimalistes, alors que les autres étaient beaucoup plus travaillés, quoi.
Ouais, j'ai juste relayé, c'était soit Jess, notre copine de Grenoble, soit même Mogor. Je sais plus.
Oh ben moi, Mogor et moi, on a dû le poster, c'est sûr. Ouais. Jess, sûrement aussi. Et
je me rends compte qu'en fait, j'ai coupé avec ma connerie notre pote Warthog.
Non, moi,
tu disais donc, tu étais à Cannes, tu parlais des enfants, tu disais pour illustrer ça, ouais. J'étais à Cannes.
Il parlait de lui simplement.
Non, je parlais de moi, je parlais pas des enfants.
Ah, voilà. t'as fait du gras, c'est tout.
Oui, puis j'étais fatigué. C'était bah voilà. J'étais malheureux dans la voiture.
C'est ça. Ah, bah les endorphines en moins. Ok. Bah donc voilà, on est au courant. Faites faire du vélo à vos enfants.
À toi, Proc.
À moi.
Bah oui, tu viens de parler.
Je viens de parler de quoi, mais... Ah oui, si, j'ai parlé.
tu as un peu de rhum dans le café, là, parce que...
Ouais, je vais prendre du rhum.
Est-ce que tu as donné ces pilules avant le repas, tout à l'heure?
Il y a quoi dans ton rhum, là? Parce que
il y a que du thé...
Non, alors, à cause du CSA, on peut pas dire qu'on boit, donc c'est pas du rhum, hein, c'est du...
On n'est pas
soumis au CSA, on est un podcast.
Voilà, ça, on est un podcast.
Ah, bon, bah passe-moi une clope, alors.
Tu veux une Malboro ou une Camel?
et fais tourner le joint.
Non, alors ça, CSA ou pas, je crois que ça reste illégal, mais...
Déconnez pas les mecs, merde, je tiens mon appart.
Oh, c'est bon, on n'a pas donné nos vrais noms.
Alors, Eric Piolle, un maire dans la ligne de mire. Là, je suis allé le piocher dans un site dans lequel je vais piocher quelques news de temps en temps. C'est Vélo Maxou, voilà, merci Maxou.
Alors, juste rappelle qui est Eric Piolle.
Eric Piolle, c'est le maire de Grenoble. Voilà. Et donc, on le titre un maire dans la ligne de mire parce que, il s'est fait avoiner par... des grands spécialistes du...
C'est là qu'il faut mettre un coup de corbeau.
Non, j'attends que... Ouais. moi, je connais la chute, donc je vais te laisser...
Par des grands spécialistes du transport, que sont l'association et 40 millions d'automobilistes, je t'en prie. Voilà. Et son zélé président, Pierre Chasseret. Donc, en fait, tout simplement... pour faire simple, 40 millions d'automobilistes et Pierre Chasseret en tête. Donc, ils se sont fendus d'une jolie vidéo courte qui fait à peine 40 minutes, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui s'intitule...
Je n'ai pas réussi à tenir plus de 10 minutes.
Grenoble, ville apaisée.
J'avais mis la pause, je me suis dit, je vais regarder la suite plus tard, je vais regarder un morceau. Et non, j'ai pas eu le courage de réappuyer sur play sur la vidéo.
Tu sais quoi?
J'avais trop envie de...
Je suis tellement un fumier qu'en fait, je suis en train de faire une news dessus. La vidéo, j'ai même pas eu le courage de cliquer sur play. Je connais déjà l'argumentaire.
Déontologie de
Pierre. Ah non, mais j'ai lu l'article.
Ceux avec qui j'ai échangé, qui l'ont regardé en entier, m'ont dit qu'ils n'ont pas interrogé une seule association cyclable. Ils ont interrogé des automobilistes.
Lambda ou membres de leur asso?
Non.
Convaincus.
Des automobilistes convaincus.
Ils n'ont pas de membres de leur asso. Ils doivent avoir une centaine de membres.
Des représentants de la Fédération française des motards en colère, avec des arguments. Moi, j'étais membre et militant de la FFMC, mais c'est des arguments que même il y a 10 ans, on n'osait même pas sortir.
Ouais.
Depuis quand on écoute les gars en colère, quoi? Quand t'es en colère, tu vas péter ton câble puis tu reviens, on discutera après.
Ouais. Non mais bon, donc j'ai même pas écouté la j'ai même pas regardé la vidéo parce que on connaît leur commentaire habituel, quoi.
Alors si, juste une chose, au début de la vidéo, Pierre Chasseret, on le voit arriver en TGV. Il prend le TGV, il prend pas la voiture.
C'est étrange.
C'est très étonnant.
Non, c'est logique, mais c'est...
Et oui, bon, parce voilà. Que disons que s'ils prenaient la bagnole, ils sont dans les bouchons, quoi. Donc tout ça pour dire que ils ont critiqué la politique cyclable d'Éric Piolle, donc le maire de Grenoble. Honnêtement, moi Grenoble, j'y étais il y a une semaine pile poil. Et au final, il s'avère que les rues sont très très agréables à vivre, quoi. Et les gens...
On rappelle, Grenoble, c'est la première agglomération à être passée toute à 30, à l'exception de quelques boulevards ce début d'année.
Voilà.
Donc c'est pas juste la ville, c'est toute la métropole, 40, toute la communauté
46
de...
ou 47
ouais, y a plusieurs dizaines de communes qui ont
voté ça. Oui, parce qu'il y a une grosse communauté d'agglo en fait, Grenoble. Hein. Deux vallées et demie, on va dire, globalement. Il y a la vallée du Drac, la vallée de l'Isère et puis une vallée annexe.
Ce qui serait intéressant, c'est cet été, en fait, voir sur les relevés de... Alors, à pondérer avec la météo, mais voir sur les relevés de qualité de l'air si ça a eu un impact ou pas.
Ouais, tout à
parce
fait.
Que Grenoble, ça reste une ville dans une cuvette assez soumise aux
jours de pollution. J'ai hésité à en parler. Là, j'ai vu passer aujourd'hui je sais plus si c'était sur, dans le, un article du Monde ou je ne sais quel journal, qui pointait du doigt, enfin une chose que l'on sait déjà depuis quelques temps, le fait que bah, la pollution aux particules n'est pas le simple fait des diesels, même si je déteste le diesel au plus haut point.
Non, c'est le fait de tous les véhicules, les plaquettes de frein, les
voilà,
pneus.
Les plaquettes de frein, voilà, l'abrasion des pneus sur, ouais, sur la
route.
Et ça représente, les plaquettes de frein et les pneus, ça représente 40% de la pollution aux particules.
Bah, putain, les mecs, on est mort quoi, parce qu'entre le Bullitt, le Veranti et le Surly,
oui, sauf que justement, le risque, hein.
Attends. Moi, je freine pas.
Les freins, c'est pour les lâches. Mais voilà, justement, qui disait, bah, oui, abaisser les limitations de vitesse, ça fait qu'on accélère moins fort, on freine moins fort.
Donc, exactement.
Toutes ces particules qui sont rejetées dans l'air, que ce soit les pneus ou les plaquettes, eh bien, il y en a moins.
Tout
donc,
à fait.
Ça améliore.
Nettement, particules fines, on est bien d'accord. Le fait d'abaisser la vitesse, même si on garde le même nombre de véhicules, ça va abaisser les particules fines. Alors, je vais me permettre, Maxou, encore une fois, je suis désolé, je te cite, mais t'as très bien dit la chose. Maxou dit, pratiquement, la vitesse est déjà inférieure à 30 km/h. Alors, où est le problème? Le problème est donc surtout dogmatique. Et l'on se demande si la position des 40 millions d'automobilistes n'est pas déjà un combat d'arrière-garde simplement destiné à attaquer un maire pro-vélo. Voilà, je terminerai là-dessus.
Ouais. C'est chouette hein, ce qu'ils font. A priori, pour le moment, ils ont décidé de faire de la prévention et de faire de la répression plus tard sur les vitesses à 30 à Grenoble, de ce qu'ils disaient. En fait, le truc, c'est que si on avait des automobilistes un petit peu responsables, on devrait pas avoir besoin de ces mesures. Dans le code de la route, il est écrit qu'on doit adapter sa vitesse à la situation. Grenoble, c'est une ville européenne standard où on a quelques grands boulevards et des petites rues. Dans les petites rues, on devrait déjà pas rouler à 50.
Ouais, je pense que c'est surtout le fait d'individus isolés, surtout ça.
Non, mais on est bien d'accord. Mais voilà, c'est. Non, mais tu vois, on devrait pas avoir ce genre de.
Moi, je te parle pas tellement pour les automobilistes parce que je pense que la plupart des automobilistes sont déjà responsables et en fait, dans les faits, respectent déjà la vitesse, cette limitation de vitesse.
Probablement, ouais.
Voilà, moi, surtout ce que je vois, c'est qu'on a une association. Un petit peu rétrograde qui s'amuse à essayer de déboulonner quelque chose sans vraiment y arriver.
C'est un peu le reproche principal que je fais à, tu parlais des motards, des gens qui ne sont que contre, qui ne sont là que dans la polémique et que là dans l'attaque à charge de l'existant, qui ne sont absolument pas force de proposition pour eux et pour les autres.
C'était intéressant.
C'est dommage.
C'est intéressant de voir que la posture de l'association. C'est marrant, on finit par parler d'automobile dans le cyclocast.
Ah, tu vois,
c'est
je t'avais dit qu'on allait finir par parler de
bagnole. C'est ça, on est en train de discuter. L'automobile
la
club de Berlin.
Le dernier caca.
On t'a pas invité sur un guet-apens.
Rassure-toi. On a quand même reçu un journaliste automobile.
C'est vrai.
Le 6.
C'est vrai.
C'est ça.
Mais il est pas reparti, il est toujours dans ta cave.
Oui, c'est ça.
Voilà, non, mais c'est ça.
Enfin, à plusieurs endroits. non, du tout. C'est Vincent. Vincent, oui. si tu nous écoutes, on te fait un bisou. Hein. T'es génial. Non, mais surtout, ce que j'aime bien, c'est que 40 millions d'automobilistes a des positions vachement rétrogrades. Alors, tu prends par exemple l'Automobile Club de Berlin.
Ah, c'est normal, ils roulent à 30, faut qu'ils rétrogradent. Ils ont pas le choix.
Tiens droit. Tiens droit cette fois-ci.
Merci, monsieur Dom.
L'Automobile Club de Berlin, par contre, lui, a des positions.
Tu nous en as déjà parlé la dernière fois de l'Automobile Club de Berlin.
Ah, mais je les aime beaucoup.
Oui, je vois ça.
Ouais. Les mecs, c'est quand même les premiers à avoir dit. Mais c'est parce que c'est totalement inconcevable en France, quoi. Les gars, lors de la dernière grève massive des transports en commun, ils ont dit aux automobilistes, oulala, putain, les gars, ça va être la merde dans les rues. Pour demain et après-demain, prenez le vélo. L'Automobile Club qui dit ses membres, prenez le vélo. Tu te dis putain, mais
c'est vrai que voilà.
Oui,
voilà.
Voilà. Bon. Donc, tout ça pour dire voilà, l'association 40 millions d'automobilistes qui a fait une vidéo. Si vous avez un peu d'humour et de second degré, je pense que ça peut valoir le coup d'aller la voir.
Si vous êtes membre de l'asso, vous verrez aussi dans quoi passe votre pognon.
Non, on dit pas membre de l'asso. Si vous êtes cousin avec Pierre Chasseur.
C'est vache, mais vrai. voilà, c'est news suivante.
Merci, Proc.
Eh ben, je vais continuer dans les trolls voitures contre vélo.
Ouais.
Donc, non, on a dit qu'on était progressiste et qu'on était force de proposition pour tout le monde.
Alors, justement, voilà.
Bon, pas là, ok.
Il y a quelques jours, donc, Jeremy Clarkson, donc présentateur polémique de l'émission anglaise Top Gear.
Encore une émission de bagnole, donc.
Voilà. émission de bagnole que j'aime beaucoup parce que ils sont complètement barrés, etc. Mais complètement, enfin, lui est très très arriéré sur ses pensées, très très années 70 de la voiture. Je veux une grosse voiture avec un gros moteur, etc. Son côté polémique fait que
il sait qu'il peut avoir le même résultat avec une opération.
Lapin compris.
Compensation.
Ah d'accord.
Opération du pénis bien sûr.
Ah. Voilà. Ou de seins, je sais pas. Peut-être, ouais. c'est ce qui lui manque, je ne sais pas. Donc non, Jeremy Clarkson a tweeté qu'il était prêt à voter pour le premier candidat à la mairie de Londres parce que il y a apparemment bientôt les élections à Londres pour un nouveau maire qui proposerait de supprimer les pistes cyclables de Londres. Donc le tweet c'était London mayoral candidates, if any of you promise to get rid of Boris' idiotic bicycle lanes, you have my vote.
Est-ce que tu peux traduire?
Donc les candidats à la mairie de Londres, si l'un de vous promet de se débarrasser des pistes cyclables idiotes
de pistes cyclables de Boris.
Le maire actuel. Boris Johnson.
Je crois que c'est non. Si c'est ça.
Si c'est ça.
C'est oui. Boris quelque chose parce que les vélos en libre service s'appellent les Boris Bike là-bas.
Les Boris Bike. Vous avez ma voix.
Eh ben il suffit qu'il y ait 10 personnes de l'association cycliste locale qui disent si vous vous débarrassez de Paul Clarkson, vous avez 10 voix.
Alors je crois que c'est Londres qui a annoncé que s'ils continuent sur leur taux de croissance en 2020. Ouais, je crois que c'était ça. Oui. Il y aurait plus
de cyclistes que
de commuters, donc de gens qui viennent travailler à vélo qu'en voiture. Ils allaient dépasser le...
En fait, bon, le but de ma news n'était pas tant le propos de...
C'est surtout de parler du shitstorm que tu t'es pris dans la gueule.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que...
Ah, c'est pour chouler, en fait.
Oui, c'est ça. Non, mais, mais laissez-moi des
Non, viens te taquine,
ni une ni deux, moi j'ai répondu en lui disant que les vélos permettaient justement de réduire les bouchons dans la ville.
Okay, ouais.
Je l'ai aussi un peu traité de dinosaure, mais c'est pas une insulte, c'est une constatation.
Oui.
Bah, c'est ce qu'il met dans son moteur.
Oui, et puis lui-même au sein de son émission se surnomme se fait surnommer par ses co-animateurs le singe ou je ne sais plus. Enfin, donc bon.
Bon, il est sur une comment dirais-je un positionnement marketing de vieux rétrograde.
Voilà.
On peut essayer de demander sa position à Colin Furz. Si on lui propose de faire un vélo avec une bonbonne de gaz derrière,
si tu veux. Alors, que n'avais-je pas déclenché là ? J'ai immédiatement pris la mesure de la haine que peuvent se prendre tous les cyclistes londoniens. Parce que pendant plus de 5 jours, j'ai posté un tweet. Alors, j'ai un peu argumenté avec les premières réponses. Mais. Rapidement, au bout de quelques heures, je me suis arrêté d'argumenter vu que ça ne menait nulle part.
Non. On vous a dit qu'il fallait pas nourrir les trolls.
Pendant 5 jours, je me suis pris du shitstorm.
Ouais.
Et je pensais pas que moi, petit tweetos.
Mais du coup,
lui ne m'a pas
répondu.
Non, il m'a pas répondu, il m'a pas retweeté.
C'est ses fans.
C'est ses fans qui ont vu ma réponse dans. Alors, j'ai peut-être aussi été parmi les premières réponses qu'il y a eu parce que j'ai répondu ça tout de suite. Et donc, c'est pas assez tôt dans les réponses. Je me suis pris un shitstorm numérique que je n'imaginais pas. Je me doutais bien que j'allais avoir quelques réponses violentes, mais pas à ce point-là.
Ben, je t'avoue que moi, ma belle-sœur est londonienne. Je me suis imaginé si j'allais l'avoir. Je me suis dit, mais je prends même pas, même si j'en ai un, je prends même pas le pliant, quoi. Je fais tout mon transport en commun. Il y a une très très grosse guerre à Londres. Hein.
Oui, mais voilà. Donc, et des gens qui accusent les pistes cyclables mises en place donc par Boris Johnson d'être la cause, selon beaucoup d'entre eux, c'est la cause des bouchons. Et jamais ils ne remettent en cause le nombre effroyable de voitures qui rentrent dans la capitale malgré les péages urbains.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Londres, ils ont été plutôt.
Ils ont été une des premières capitales européennes
à faire ça. Ouais.
À faire ça, ça avait été très polémique à l'époque. Et malgré ça. Il y a encore des bouchons monumentaux et la faute c'est les pistes cyclables qui sont très grandes, certes elles sont très grandes mais ça permet justement d'inciter les cyclistes à prendre leur vélo et à pouvoir se sentir en sécurité pour circuler
je veux dire, la cause des bouchons, c'est les voitures.
Voilà.
Point. Il n'y a pas d'argument opposable à ça, si tu veux.
J'avais noté, voilà, mais enfin, des arguments, une mauvaise foi à faire pâlir Pierre Chasseret.
Ah oui, bien sûr.
Encore lui, mais là, franchement.
Non, mais après, je pense que de toute façon, la seule manière de pouvoir réussir à les faire réfléchir un petit peu, ça serait que les organisations britanniques de promotion du vélo à Londres organisent des opérations comme les opérations lettonnes.
En Lettonie. Oui, avec les silhouettes de vélo, de voiture.
C'est ça qui avait fait des shapes de
vélo. Ah oui, exactement.
Voilà, faudrait une opération massive dans ce genre-là et qu'on leur dise, ben voilà, vous voulez qu'on reprenne des bagnoles? Si vous voulez, hein.
Alors, au milieu de tout ça, bon, j'ai quand même eu près de 60 j'aime sur mon tweet, donc je me dis qu'il y a quand même des personnes qui partageaient mon avis sur le sur la situation.
Il faut être honnête, mec, c'était les copains, hein, j'en fais partie.
mais dans l'eau, il y a des mecs qui sont vraiment d'accord.
Non, sur les 60,
on peut liker sur Twitter.
Oui, tu peux. C'est petit cœur. C'est favori.
En fait, c'était des favoris, ça a été renommé en j'aime.
Voilà.
Et c'est une autre polémique. Donc voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont soutenu mon propos et qui ont aimé mon propos, et qui sont venus appuyer mes dires, etc. Mais je m'attendais pas à autant de violence juste pour un tweet où j'étais.
Bon, résultat.
J'étais provocateur, mais pas plus que provocateur.
Va falloir qu'on aille faire du vélo à Londres,
pas
quoi.
Pas plus provocateur que personne n'était dans son tweet initial.
En somme, il fait bon vivre en France.
Finalement,
pas si mal.
Voilà, chez les Britanniques, c'est pire. Voilà.
Bien.
Malgré l'image du Britannique flegmatique et poli qu'on peut avoir.
Bon, ben, un point en moins pour la perfide d'Albion. À toi, Brock.
Ça fait cher l'addition quand même. Cumul.
Je vois pas le rapport avec la Bretagne.
À moi, tu disais. Donc, oui. Malgaré, ce casse-couille va vous faire regretter. C'est le titre d'un article de l'Obs et Rue 89 qui
En fait, Rue 89 a été racheté par Nouvel Obs, donc c'est pour ça que c'est.
Oh putain, ça trop vite pour moi ça.
Donc, bref. Attends, on peut liker sur Twitter, mec.
Et t'as vu que c'est le vieux
un jour. Hein.
C'est le vieux qui nous fait la piche.
Bah,
quand même.
Ouais, mais qu'est-ce que tu veux.
Alors, ouais, donc.
Désolé, ça fait 8 ans que je suis sur Twitter.
Oh putain.
En fait, ça existe que depuis 6 ans. Twitter.
Je suis à la ramasse. I was on Twitter before it was cool. Il a la barbe, les cheveux courts sur le côté, on sur le dessus, c'est bon. Donc, oui. Donc, Rue 89 racheté par l'Obs ou l'inverse.
Non, c'est ça. Ils n'avaient pas les sous.
Qui a fait un article sur un copain qu'on connaît depuis quelques temps de Rouen. Mais qui gagne en
notoriété 50€.
C'est 50€,
c'est
ça.
YouTube, exactement.
C'est ça. Et donc, en fait, en l'occurrence, il s'avère que notre copain, donc, on va dire Jean-Claude, depuis quelques années, nous en a même parlé sur Vélotaf, il me semble. Hein. Faut que j'aille gratter, il me semble.
J'ai pas été très actif sur Vélotaf ces derniers temps.
Ouais,
mais oui,
Donc en fait, il a fait des petits stickers qu'il a commandé dans une boîte de stickers spéciale avec une bonne colle et en fait.
Non, justement, il a fait des trucs qui pouvaient s'enlever sans laisser trop de traces pour ne pas être emmerdé pour dégradation.
Dans un premier temps. Maintenant, il me semble que ça tient bien quand même. Et donc c'est des stickers rouges, enfin encadrés de rouge où il y a marqué "Je me gare où je veux et je vous emmerde". Hashtag crevard, hashtag gougnafier. Et donc en fait, sur sa route tous les matins, quand il croise un mec mal garé. Il leur colle dessus. Alors bien sûr, ils se cantonnent pas à la bande cyclable. Hein. Le trottoir et le passage piéton, ils s'en prennent aussi. Et en l'occurrence, bon, c'est vrai qu'il va un peu au contact. Jean-Claude, il est.
Il a pas peur. Hein,
il a beaucoup de courage. Ouais. Il s'est pris des taquets. Il est allé aussi porter plainte pour ces taquets-là. Et il me semble que.
Surtout, en fait, ça a commencé parce qu'il avait une caméra embarquée.
Voilà.
Et il a commencé à publier les crasses qu'on lui faisait.
Sur cette première vidéo, ce qu'on voit, c'est qu'il parle aux gens. Donc les gens sont mal garés, il arrive à vélo et il va les voir et il leur demande pourquoi ils se garent là. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit, simplement, hein, sans les agresser, sans poliment, en disant bonjour. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, quand on voit le nombre de réactions
agressives immédiatement,
voilà, négatives dans un premier temps, carrément des menaces de mort très rapidement, ça fait flipper.
Oui, je peux en témoigner. Effectivement, à Lyon, je fais ça. Moi, je suis actuellement coursier à vélo pour des nombreux restaurants. Et
il y a pas de pub. Tu peux y aller.
Take it easy. Voilà. Et voilà. Bah, du coup, je fais des livraisons et je circule beaucoup à vélo. Et il y a beaucoup de gens qui se garent sur les pistes cyclables. Et ces personnes-là, de temps en temps, quand je suis pas trop pressé, je m'arrête et je leur demande pourquoi ils se garent là et est-ce qu'ils pourraient pas aller se garer ailleurs. Et souvent, ça m'est arrivé une fois depuis que j'ai commencé à faire ça où un petit jeune m'a dit pas de souci, on va se garer ailleurs, et ils sont allés se garer à une place qui était disponible 2 mètres plus loin. C'est juste qu'ils avaient la flemme, mais c'était possible. Mais sinon d'habitude c'est va te faire mettre, je t'encule, ça cycliste de merde, enfin voilà,
t'es de la police, hein.
Ouais, ça m'est pas encore arrivé, mais c'est le truc.
Moi, j'ai le droit, mais moi, je voilà. Quand les personnes sont dans la voiture, je leur demande, et puis après, c'est immédiatement, je sors mon téléphone et j'appelle.
C'est Gigi, un copain de.
Ah, c'est justement la méthode de Gigi.
Gigi,
j'appelle les flics.
Non, mais oui, et puis en plus, ce qui se passe, c'est qu'il a déjà entendu droit. Il a déjà eu droit à des. Vous êtes de la police. Oui, si vous voulez, je peux appeler les collègues.
Ah bah oui.
Mais en plus, ouais. Il a un aplomb qui est terrible, ce qui fait que les mecs derrière, ils sont. Bon, on va aller se déplacer. Il a vraiment pas honte. Donc tout ça pour dire qu'on commence à parler de Jean-Claude, et puis il y a une petite vague qui se crée. Je dois même avouer que moi-même il m'a donné parce que Jean-Claude il est pas non plus taillé comme une armoire à glace.
Bah, il est taillé comme un cycliste, quoi.
Bah, il est taillé comme un cycliste, alors que moi je suis plutôt taillé comme un rugbyman. Et quand je vois que moi j'ai la trouille de me prendre un pain, alors que lui il hésite pas à aller au contact, je me dis que je vais peut-être essayer de prendre des autocollants aussi et de suivre son exemple, quoi.
Oui, et puis surtout il s'est aussi lancé sur un combat, parce que apparemment à Rouen il y a la métropole
c'est interdit syndic certains... des transports. L'équivalent de TCL s'appelle Théor là-bas, je crois.
Mais je crois que c'est la métropole qui demande justement que les cyclistes n'aient pas le droit d'utiliser les voies. Il y a des voies de bus qui sont réservées aux bus Théor.
C'est ça.
Et donc où les cyclistes sont malvenus au point que la métropole demande aux flics d'aligner. Et il s'est pris comme ça une prune à 90 euros.
Dans le
qu'il a filmé en floutant les têtes des policiers, mais qu'il avait flouté. Bon. Il y a quelques jours, il y a justement un truc très amusant en riant jaune. Une voiture de la municipalité, de l'agglomération, justement, qui était garée sur une piste cyclable et qui l'a vu se faire aligner par les flics, et donc qui s'est pris une prune à 135 euros avec enlèvement demandé par l'agglomération, qui réclame que les cyclistes ne soient pas sur les voies Théor.
J'imagine le bonhomme qui arrive, qui fait les 45 euros, je voulais pas y aller, c'est pour moi, tenez. Ouais, ouais, non, c'est ce qu'on appelle.
C'est 135.
Oui, 135, oui. Donc il paye les 45, la différence avec les 90 qu'il a payé, tu vois.
Ok.
C'est ce qu'on appelle en philosophie les rusquins. Rusquin, c'était un mec qui était persuadé que la locomotive, c'était quelque chose qui allait pervertir les gens, etc. Et il s'amusait à narguer les chauffeurs de locomotive en faisant rouler sa calèche à tombeau ouvert avec les chevaux qui étaient fouettés au sang à côté des locomotives, quoi. Quand je vois des gens qui disent non, mais les cyclistes doivent pas rouler sur les voies de bus, quand je vois les Pierre Chasseret et autres Clarkson qui nous disent le vélo,
Clarkson, c'est pas incompatible avec lui.
Voilà, c'est hey connard, dégage. Qui nous disent que le vélo ça n'a rien à faire en ville, que c'est complètement nul, etc. Je vois des rusquins. C'est vraiment un terme qui est resté en philo. On appelle ça des rusquins, et c'est vraiment ça. Enfin, c'était Monsieur Ruskin en anglais, mais c'est le même principe.
Merci, professeur Proc.
Excuse-moi, j'ai fait L en même temps, les gars. Si vous pouvez pas me le reprocher.
Moi aussi, mais j'ai plutôt tendance à m'en cacher. Hein.
Ah non, mais moi je le revendique. T'as fait L, toi ?
Et j'ai même eu mon bac.
T'as fait SPMAT ?
Ouais.
Ah, d'accord.
J'ai eu 4.
Gros dégueulasse. Donc tout ça pour vous dire que Jean-Claude, c'est notre héros. C'est notre.
Pas forcément un héros, mais.
Oui, pour la petite anecdote pour les autocollants. Moi, j'ai souvenir d'un ami sur Lyon qui s'était lancé dans la fabrication d'autocollants et qui il les vendait sur Internet et pour que les gens puissent les distribuer largement à ses chers automobilistes.
Je suis garé comme une merde.
C'est ça. Écrit en noir et blanc avec je suis une merde.
On lit je suis une merde et en petit il y a marqué Garé comme
et du coup voilà, on lit et puis après en dessous ma fainéantise oblige piétons et cyclistes à se mettre en danger en me contournant. Et donc il avait reçu un mail de je ne sais qui. Alors qui disait vous n'avez pas l'autorisation de faire ces autocollants. Il y a telle personne qui a le monopole.
Quand le mouvement je suis une merde, enfin, et donc je suis garé comme une merde.
Oui, garé comme une merde.
Il y a donc les GECUM a commencé. Il y a eu il y a un petit malin qui a dû déposer la marque, le brevet, enfin, et donc qui a les droits dessus.
Il peut se garer comme il veut, ce sera toujours une grosse merde, quoi.
Oui.
Non mais c'est un mec qui est il a
senti le mouvement et il s'est dit je vais me faire du fric dessus, quoi.
Voilà, c'est ça.
Salaud d'entrepreneur.
Donc voilà, mais ouais, dans tous les cas, si donc Jean-Claude, c'est un mec qui a au moins le mérite d'y aller à fond et d'assumer ses opinions. Je vous invite à aller donc sur l'article de l'Obs, on va mettre le lien, et d'aller lire au moins un petit peu son interview et puis de voir ce qu'il fait, quoi.
Ouais, voilà. Et puis moi je vais proposer, s'il passait à Lyon, de nous faire signe et qu'on le cuisinerait dans le podcast.
Je lui fais même les pizzas.
Non, je suis pas forcément, enfin, je considère pas comme un héros si tu veux, mais je trouve que sa démarche est intéressante.
Voilà.
De s'opposer et de montrer encore que bah voilà, on est parfois un peu encore martyrisé en tant que cycliste.
Et c'est d'autant plus
louable.
Louable, tout à fait, merci. Et intéressant comme démarche de le faire dans le respect des personnes, la non-violence, c'est d'attaquer un comportement général.
Oui, quelque chose qui passe pour acquis, quoi. C'est pas grave si on garde 5 minutes.
Ouais, c'est pas grave, mais c'est quand même un comportement qui est anxiogène pour les cyclistes et qu'il faut que ça cesse, mais que du coup cette personne, ben voilà, quand il va voir l'automobiliste, il va d'abord lui demander pourquoi il fait ça, dialoguer un petit peu avec lui dans le respect de la non-violence, et ensuite ben voilà, mettre un autocollant comme Stop Douchebag Movement en Russie.
Qui prennent des gros risques par contre.
Oui,
parce que
les Russes ils sont nombreux.
Ouais, ils sont nombreux, mais t'as vu les Russes quand ils ont décidé de rouler sur des gens, voilà quoi.
Ah bah, ou de sortir le flingue.
Ouais,
ou
voilà. Ouais.
Mais bon,
c'est normal en Russie.
C'est ça.
Non, moi je n'arrive pas à ce niveau de courage, hein, les gars. Je vous le dis tout de suite.
Alors, en même temps, quand tu y vas à 10, déjà t'es.
Ouais, sauf que le gars il sort un flingue. Voilà. Oui. Il a 15 balles dans le chargeur. Même si t'es 10, globalement.
De manière générale, c'est pour intimider. C'est
ça coûte cher les balles.
Ça coûte cher les balles. Ça coûte cher la prison, en fric, en carrière, en tout ça. Voilà.
Ok.
Mais voilà, c'était Manimous.
Merci professeur Proc.
De rien.
Alors moi, je vais quand même revenir sur indirectement sur la news précédente. Donc
maintenant, on fait des rétropédalages en direct, quoi.
Ah, c'est pas tout à fait un rétropédalage. Non, justement, je vais. Parce que dans les discussions qu'il y a eu suite à mon tweet en réponse à Clarkson, j'ai eu aussi des liens qui argumentaient mes dires ou qui appuyaient mes dires. Donc, par exemple, 85% de l'augmentation de la part cyclable est due aux infrastructures. C'est ce qui ressort d'une étude qui a été faite à Cambridge entre 2009 et 2012. Donc, cette étude analysait comment le changement de l'environnement influençait les changements d'activité physique en se basant sur la proximité d'infrastructures cyclables. Donc on y apprend que 13% de l'augmentation de la part cycliste est, on va dire, la part naturelle, donc ceux qui seraient passés au vélo de toute façon, mais surtout 85% de ceux qui se sont mis au vélo l'ont fait parce qu'il y avait des nouvelles pistes cyclables à proximité de chez eux qui leur permettaient de prendre le vélo en se sentant en sécurité.
Je crois que c'est un peu ce qui ressortait de l'étude dont on avait parlé, qui était au Canada.
Alors, au Canada, il disait surtout. Oui,
il disait que l'accidentologie baissait en fonction des comportements et des infrastructures.
Oui, et que un critère de cyclabilité était aussi la part de
femmes, oui, voilà. Qui avaient plus tendance à emprunter itinéraires safe.
En fait, à Cambridge, ils ont fait une grande campagne, si j'ai bien compris, de réaménagement de la ville en développant un gros réseau cyclable. Et donc, ils en ont profité pour faire cette étude qui a, sur la durée des travaux, donc avant les travaux et jusqu'à après, mesurer l'évolution de pare cyclables et sonder les gens qui s'étaient mis au vélo. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclenchant ? Donc voilà, continuons à militer pour plus de pistes cyclables. Les cyclistes potentiels se sentiront plus en sécurité et seront donc plus enclins à délaisser leur voiture.
On avait aussi, pour prolonger, c'est une piste de réflexion. Une piste cyclable de réflexion. Nous, on est en train de se poser des questions sur Lyon, sur la... Comment dire ? Sur en quoi l'infrastructure de circulation provoque la mise au vélo de gens. Mais on commence à se poser aussi la question de la pertinence du stationnement. Et on se rend compte qu'en fait, plus il y a de stationnement aussi, plus ça va inciter les gens à se garer à vélo.
Oui. Non, mais oui.
Pour revenir sur les questions de stationnement, ça fait penser à une journal parodique Corse Machin.
Ah oui, on a enfin le droit de plastiquer les gens garés en double fil. Avec une bagnole qui explose.
D'accord. Voilà, mais donc vous le savez, nous on est en train de se poser la question. Et maintenant, là, sur Lyon, ça, il faut alors, bien l'avouer.
Je pense que ce serait efficace de plastiquer les voitures en double fil.
Ça, je pense que oui, après.
Ouais.
Bah, après, on aura des épaves en double fil, mais c'est vrai qu'il y a le petit côté festif. Moi, j'aime bien ça.
Oh, on peut récupérer le métal.
Ce que je disais, c'est que je trouve que sur Lyon, on est quand même plutôt bien loti en fait, en stationnement vélo.
Alors, nous, on trouve que c'est insuffisant. Par contre, plutôt l'inverse, on a tendance à penser que maintenant, la dynamique d'équipement. Connard. La dynamique d'équipement de pistes cyclables, elle commence à être balèze. On commence à avoir maintenant on n'a plus besoin de dire hey, les mecs, vous pensez à une piste cyclable là, ou une route. Donc là tout de suite en fait, voilà, on a les élus et les ingés qui viennent nous voir, qui nous pensent. Vous avez vu hein, on a pensé à la bande cyclable. Hein voilà, donc c'est génial parce que on commence à arriver, on passe la porte de la mairie et là les mecs nous annoncent, ils font on a pensé, hein, on y a pensé. Donc c'est justement c'est assez confortable parce que du coup on commence à pouvoir souffler, à pas devoir se battre systématiquement pour avoir une bande cyclable ou une piste. Et par contre, là où on intervient, c'est pour demander du stationnement.
Ouais.
Voilà.
Alors moi, pour me balader un peu souvent avec mon boulot un peu partout dans les villes moyennes et grandes en France, globalement, alors je passe toujours à vélo, mais j'essaie de le faire le plus possible. Et globalement, je trouve qu'on est quand même plutôt bien loti.
Plutôt bien loti sur les...
J'étais à Paris il y a 2 semaines et... Bon, moi, j'avais pris un hôtel dans Paris et j'allais travailler à Rony. Faisait quoi, 8 km à peu près. J'étais dans le 11e et je me suis baladé un peu dans le 11e le soir et même pour revenir en journée. Globalement, pas tant que ça. Alors, c'est pas mon quartier, je le connais pas par rapport à chez moi. J'ai mes habitudes, je sais qu'il y a des trucs à vélo, mais sur Lyon et sur la métropole. Globalement, je sais que quand je vais à un endroit, je trouverai de quoi me garer et de me sécuriser correctement quoi.
D'accord. Bon à méditer alors.
Alors encore une petite news pas complètement vélo. Je vais vous parler d'un de nos administrés qui ferait bien de poser son cul ailleurs que dans sa voiture. Ça lui évitera sans doute des hémorroïdes. Le maire de Garges-lès-Gonesse.
Ah ouais, non, il lui mérite. Ouais.
Donc qui a fait réserver une place de stationnement devant chez lui pour éviter de devoir chercher une place et de se garer à... Oula, quelle horreur, 100 ou 200 mètres. Voilà, donc c'est le Parisien.
Après, on sait pas, peut-être qu'il marche sur les genoux.
Oui, non, mais voilà, il vante le fait de comme ça, de gagner du temps sur ce.
Pour 200 son mètres rôle, à pied, il gagne du temps.
Pour son rôle d'administré, d'être plus disponible, machin. Enfin,
bon. Ouais, c'est sûr.
Donc voilà, c'est le Parisien qui nous apprend ça. C'est un truc que j'ai vu passer aujourd'hui. Et quand je lis ce genre de conneries, je me dis que ça lui ferait pas de mal aussi de marcher un petit peu pour irriguer un peu plus son cerveau.
Oui, mais ça lui permettrait de se rendre compte dans sa ville aussi qu'il n'y a pas que des gens en voiture. Et donc, les problèmes d'infrastructure ne s'opposent pas qu'aux gens en voiture.
Oui, alors, Garges-lès-Gonesse, pour connaître un petit peu la banlieue parisienne, c'est...
C'est à côté de Roissy, c'est ça, pas loin de...
Ouais, enfin, c'est dans le nord-ouest, ouais. Si je dis pas trop de bêtises. C'est donc une banlieue très, très résidentielle, où donc c'est assez étalé avec des résidences pavillonnaires. Donc malheureusement dans ces coins-là, très souvent t'as besoin de prendre ta voiture. Enfin c'est mal foutu pour faire autrement qu'en voiture.
T'as besoin.
C'est mal foutu.
Mais
c'est pas fait la voiture reste pratique parce que c'est.
Voilà. Parce que ça a été conçu comme
oui.
ça.
Non, mais je.
Oui, c'est ça.
Je dis pas qu'on pourrait pas faire autrement. Je dis que ça a été conçu. Oui, comme tu dis.
C'est à travailler. Il faut faire des travaux.
Mais voilà. Et donc c'est une zone résidentielle où tout le monde n'a pas forcément autant de places de parking qu'il n'a de voitures, parce qu'il y a généralement au moins une voiture par adulte de la famille. Mmh. Parce que bah, la gare est pas juste à côté, que les parkings des gares en banlieue parisienne ne sont pas sécurisés, et donc quand tu t'es fait visiter ta voiture deux fois dans l'année, que t'en as ras le bol de payer les franchises et les frais de réparation de serrure et de remplacer l'autoradio, ou de retrouver ta bagnole dégueulasse parce que t'as un mec qui était gerbé dans ta bagnole, bah tu finis par
Alors, non, tout ça, je le confirme parce que j'ai une de mes amies d'enfance qui est originaire de la région de Gonesse, elle est d'Arnouville. Et oui, effectivement, c'est plus ou moins ce que j'ai vécu dans les années 90, enfin ce que j'ai pu voir, quoi. Donc, c'est pas exagéré. Hein.
Là, ce qui est navrant, en fait, c'est qu'on a un élu, donc quelqu'un qui est quand même plutôt censé s'occuper de l'aménagement du territoire, hein,
qui
s'octroie un droit et qui ne.
Qui a pensé à sa gueule, ouais.
Non, mais qui n'envisage pas le problème sous aucune autre forme de réflexion ou de solution.
Il n'y a pas de problème.
Il y a un problème de stationnement. Comment il fait?
Non, il n'y a pas de problème, il a une solution pour lui.
Il avait un problème de stationnement, voilà. Comment il fait? Il s'est réservé de la place.
Voilà.
Il s'est pas posé la question de se dire, putain, il y a plein de gens en bagnole, il n'y a pas de place pour stationner, quelles sont les causes de ça et comment on réfléchit à long terme pour améliorer ça?
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors après que les gens protestent parce que lui s'est réservé une place, finalement, ils protestent parce qu'ils voudraient la même chose,
Non, de façon surprenante, dans le Parisien, quand ils ont interrogé, donc le Parisien est assez choqué de cet état de fait.
Le Parisien, le journal Parisien, oui. En général, tu veux dire.
Mais ils ont interrogé des gens dans le voisinage qui, globalement, se trouvent que c'est normal, c'est pas une... Il a, en tant que maire, c'est tout à fait légitime qu'il fasse ça.
Merci patron.
Il est maire, il est pas dictateur. Ça roche pas
dictateur.
L'espace.
Dictateur.
Ah, bien joué.
T'as eu.
Non mais bon d'accord.
Non,
okay.
Voilà. Non, voilà.
Ok. Bon. Mais oui, effectivement, c'est pour le moins troublant.
Merci Grincheux.
Je reste dans la même veine.
Vas-y. En plus, Grincheux, t'as volé ton tour, donc je pense que tu peux faire deux news d'affilée si tu veux.
Je vais pas voler son
tour. Bien sûr que
si. Les deux news précédentes, c'était toi.
Faut vraiment qu'on renforce le dosage des pilules à PP.
De toute façon, j'ai plus de news que lui. Donc,
donc non, mais moi, je vais vous parler, ça tombe bien, puisqu'on parle de mecs qui s'arrangent un petit peu. Je vais vous parler de Michel Aubier.
Ah, je l'aime bien, lui.
Ah, le bon docteur.
Le bon docteur Aubier. Donc, le docteur Aubier, Michel Aubier, c'est le chef du service de pneumologie et allergologie à Bichat. Jess, si tu nous lis, j'ai bien envie que tu me parles un peu de lui parce que
va nous écouter là plutôt.
Oui, si tu nous. Pardon, désolé. C'est mes pilules à moi, il m'en manque. Jess, si tu nous écoutes, je veux bien que tu m'en parles à l'occasion de Michel Aubier parce que quelque chose me dit que Bichat, tu y as taffé, donc du coup, tu dois le connaître, ce monsieur.
En même temps, c'est un peu un gros truc, un gros hôpital de Paris.
Ah, mais elle connaît les chefs, hein. De nom, quoi. Ce monsieur, en fait, concrètement, je vous le résume
C'est le monsieur qui dit que le diesel n'est pas toxique pour la santé. C'est ça.
Hein. Il a beaucoup modéré l'impact du diesel sur le système respiratoire des gens et sur la pollution qu'il pouvait engendrer.
Rappelez-moi son métier.
Il est docteur.
Il est pneumologue. D'accord, voilà. C'est ça. Il a confondu en fait. Pneumologue, c'est pas poumon, c'est pneu de bagnole pour lui en fait, directement.
Tout à fait, parce qu'en l'occurrence, il s'avère que Michel Aubier, vous n'irez plus chez lui par hasard. Ce monsieur, il s'est. une enquête du journal Libération révèle que Michel Aubier siège depuis 10 ans environ à la Fondation Total. Le mec, qui bosse pour un pétrolier.
Bah ouais.
Voilà. Donc,
le bon docteur lobbyiste.
Je vois pas le conflit d'intérêt.
Nullement. Monsieur, s'il vous plaît, pas d'insultes ici. Voilà. Donc, vous savez, Michel Aubier, donc ce docteur qui vous allez peut-être entendre.
Ah, on
des
en
gens
a
vous...
beaucoup parlé ces derniers temps, ouais. Parce qu'il a d'abord nié, je crois, disant qu'il avait été par le passé rémunéré par Total pour des conventions, des conférences, et en fait on s'est rendu compte qu'il était réellement payé, salarié de la fondation et aussi de Total pour d'autres choses depuis au moins une quinzaine d'années.
C'est exactement ce que dit l'article. Alors je lis pas les articles sur lesquels je me base, mais ce qui se passe, c'est que je me les garde comme
C'est du prof, ça tient.
C'est non.
Je ne vous lis pas mot à mot les articles dans le podcast, mais je me garde les liens pour me faire des penses bêtes pour savoir de quoi je vais vous parler. Et donc l'article là en l'occurrence que j'ai gardé comme penses bêtes, c'est Carfree. Salut les gens de Carfree, merci, hein, vous faites du bon travail. Et justement,
à l'occasion, s'il y a quelqu'un de Carfree qui veut participer au podcast, on serait enchanté de vous recevoir.
On sert des parties fines à Lyon, mais on va tous se recevoir. Je te raconte même pas le lubrifiant bio, ça va y aller. Hein.
Oui, ouais.
Non, je rigole, c'est de l'humour. Non, mais tout ça pour dire que oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qu'on pourrait recevoir sur Lyon, et effectivement, on sera ravis de vous recevoir. Donc, justement, dans l'article, ils disent qu'en mai 2015, Michel Aubier s'est fait offrir pour 7 469 € de frais de transport pour un congrès symposium. Ah bah bravo.
C'est classe.
Ah,
hein.
C'est classe ça.
Moi j'ai pas de micro dans la main, je sais pas d'où ça vient.
Tout ça parce que c'est Félix qui le tient. Voilà, donc du coup c'est une entreprise qui a payé, bien connue pour ses pratiques d'achat de médecins et de conflits d'intérêts avec l'agence du médicament. Il s'agit de l'entreprise AstraZeneca. Donc voilà, vous savez que si quelqu'un vous dit « Non, mais le diesel, c'est pas si méchant, il y a le docteur Aubier de Bichat qui l'a dit. »
Il bosse pour Total.
Il bosse pour Total. Ce mec-là, il y a conflit d'intérêts, ses arguments ne peuvent pas être retenus.
C'est pire que ça, parce qu'il me semble avoir lu qu'il avait participé à certains rapports commandés par le gouvernement, justement, sur l'influence du diesel. Enfin voilà. Potentiellement des choses qui ont pu ou qui auraient pu orienter la politique.
Il fait partie effectivement de ce qu'on appelle les experts. Avec
voilà, c'est ça, c'est un expert.
Voilà, donc vous savez, si on vous parle de Michel Aubier, vous dites tap, je veux pas entendre parler.
Merci Michel.
Et Jackie.
Ah, je l'attendais.
Tiens.
D'ailleurs, s'ils veulent venir au. Non, pas du tout.
non, je ne veux pas chez moi. Hein.
Bien, Proc, tu as gagné une news bonus.
Allez, je vais vous parler. Non, mais ça c'est une news rapide. On va passer sur un peu sur quelque chose de plus léger. Nous félicitons Monsieur Nicolas Poulouin qui depuis mars 2016 est le nouveau président de la F3V.
Bravo.
L'association française des véloroutes et voies vertes.
Merci Proc.
Voilà.
Merci professeur Proc.
Donc, en l'occurrence, c'est une association qui elle. Fait la promotion du tourisme à vélo et du développement des voies vertes, des véloroutes.
Ça va parler à Félix.
Voilà, ça va beaucoup parler à Félix. Et en l'occurrence, il s'avère que l'administration était plutôt houleuse dans la F3V, la succession un peu difficile. Et donc, le 5 mars dernier, Francis Mons, qui avait démissionné, a laissé son poste à monsieur Nicolas Poulouin. Il y a 9 administrateurs sur 17 qui ne se sont pas représentés, donc ça a été un petit peu dur. Là, il y a du 109 qui arrive. Donc, il va y avoir du boulot. Mais moi, je suis très confiant. Je pense qu'il va y avoir du nouveau.
Moi, je pense que ça va permettre à l'association d'aller plus loin. Ah, moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai pas de contenu. Hein, donc, je remplis avec ce que j'ai, les gars. Hein.
Donc voilà, mais moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour les voies vertes et véloroutes. D'autant que je vois moi la mienne se développer. Vous savez que je suis originaire d'Ardèche et qu'on a peu à peu la voie verte Le Teil à l'Est qui est en train de grandir. Elle a encore pris 15 km depuis la dernière fois où je suis descendu chez mes parents.
On en est où sur le tronçon Lyon-Givors? Non, c'est une vraie question. Hein.
Au fond à droite.
D'accord, ok.
Voilà, non, mais moi je parle de la région que je connais, hein, la Basse-Ardèche. Mais voilà, donc bientôt, Le Teil à l'Est, ça sera faisable, je pense. Hein,
non, mais
ça va venir. Il y aura peut-être le tronçon Gardois qui sera un petit peu plus dur, mais le tronçon Ardéchois est bientôt terminé. Hein. Donc je pense que la F3V, il y a encore de l'avenir, et puis ça va apporter beaucoup au niveau des régions touristiques. Donc tenez la barre, les gars, on est derrière vous. Voilà.
Alors après, en termes de véloroute aussi, je sais pas si on l'avait déjà mentionné dans le podcast précédent, je ne les ai pas écoutés.
Dis-moi.
Honte à moi. Mais, mais du coup, l'Eurovélo 6, j'imagine que vous êtes au courant.
La Loire à vélo.
Pas l'Eurovélo 6, excusez-moi. La Via Rhôna va rentrer dans les Eurovélos, justement.
Mm-hmm.
Eurovélo 6, lapsus révélateur de l'Eurovélo route la mieux réalisée à l'heure d'aujourd'hui.
Alors j'en ai parlé un petit peu de la Via Rhôna, mais de point de vue local, puisque moi je l'ai pratiqué de Lyon jusqu'à Valence. Et puis après, j'ai fait une étape Valence.
Elle est pas top pour l'instant. Enfin, moi, je l'ai faite il y a un an ou deux. Il y a pas mal d'endroits où je savais pas où j'étais.
Oui, moi, je
sais pas. Ah, le fléchage.
De toute façon, ça commence déjà à Loire-sur-Rhône déjà.
Ouais, oui. Ouais. Voilà. J'aurais tendance à dire que, enfin, on va pas refaire le podcast, l'épisode 6, mais tu iras l'écouter. Tu iras faire tes devoirs, Félix.
oui, maître.
Mais en l'occurrence, donc, moi, ce que j'avais retenu, c'est que globalement, en fait, sur 90%, c'est super propre. Et il y a que 10% où effectivement, t'es lâché dans la nature et tu te retrouves complètement paumé. Et pour accrocher les wagons, c'est dur. Mais moi, j'ai trouvé que globalement, quand ça va de longue et que tu suis les berges du Rhône, ça va bien.
Mais je me rappelle notamment d'une portion, enfin mon postérieur se rappelle de cette portion.
Et des racines de peupliers.
Voilà, oui. le goudron est très très fin et du coup pendant, il n'y a pas de choix parce qu'en fait le reste c'est de la terre avec du gazon et tout ça. Et c'est juste pas praticable. Mais du coup il n'y a juste pas le choix que de se prendre toutes ces racines et qui sont rapprochées à une trentaine de centimètres chacune et ça fait du bosselage. À foison, et ouais, j'en ai chié, quoi.
Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, j'en ai parlé, ouais, effectivement. Le revêtement est pas top, et t'as intérêt à avoir des pneus un peu épais à certains endroits, ou alors à zigzaguer, effectivement.
Par contre, du coup, je crois que la portion au nord de Lyon est plutôt, plutôt pas mal.
Elle est belle.
C'est plutôt, plutôt en bon état, et plutôt...
Mais c'est pas directement la Via Rhôna, c'est l'anneau bleu. C'est géré en partie par la métropole.
Bah, la Via Rhôna, normalement, c'est le Léman à la mer, hein.
Oui, oui.
Oui, mais il y a 2-3 portions.
La partie lyonnaise au nord de Lyon, c'est l'anneau bleu, en effet. Mais l'anneau bleu est une portion de la Via Rhôna.
Oui, c'est une portion de la Via Rhôna. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore bien. Après, quand tu traverses l'Ain et tout, c'est de bonne qualité, même sur cette partie-là.
Ah, c'est le pont de Jon.
Peut-être bien, oui.
Pont de Jon. Après, pont de Jon, mec, il faut la trouver, la véloroute. Hein. Moi, pour l'instant, je suis passé dans des champs de maïs. Je sais pas si c'était la Via Rhôna. C'était tranquille, il n'y avait pas de bagnole, certes, ouais. Mais...
Bon, ce sera.
À voir.
Bon,
on fera une expédition. Il faudra que j'aille revoir.
On fera un test.
Bon, on ira se baigner à Pondin. C'est chouette.
Merci, Proc.
Rien.
Alors, bon, moi, je vais faire un petit peu ma pub.
Oh, j'ai eu peur. Fais ta pub.
J'ai fait une participation dans le podcast collaboratif La vie des moutons sur un sujet qui nous touche, le port du casque. Alors, je vais faire court. Je suis tombé sur un article qui modélise.
Enfin, t'es tombé, mais t'avais ton casque?
Oui. Non, justement, c'est Picaboo, donc le créateur de ce podcast, qui avait retweeté un article sur qui a modélisé des situations d'accident pour mesurer l'impact d'un casque sur la réduction des lésions.
Ah oui, de l'accidentologie finalement.
Voilà, c'est l'accidentologie pure. Donc ils ont modélisé des accidents en comparant avec des accidents similaires les lésions qu'ils obtiennent dans la modélisation informatique avec ce qui s'est réellement passé. Et après, ils ont reproduit le même truc en mettant sur le modèle informatique un casque. Donc sans surprise.
Ah oui, ils n'ont pas vraiment jeté des gens par terre avec un casque pour voir comment ça les...
Puis tu sais, tu fais le test une première fois et la deuxième fois est moins probante parce que
Le cerveau, oui.
Voilà.
Faire ça avec des enfants, ça se régénère plus vite.
Alors, sans surprise, bon, le casque peut réduire jusqu'à 85% le traumatisme crânien. Mais ce qui m'a surtout le plus intéressé, c'est que dans cet article.
Le polystyrène réduit le. Ah ouais, moi j'aurais pensé qu'il fallait plutôt des mousses en fait.
Tout va dépendre aussi des conditions de l'accident. Et si le casque est vraiment au niveau de l'impact, etc. Mais les casques aux normes actuelles peuvent réduire jusqu'à 85% le traumatisme crânien. Donc ça n'est pas négligeable.
Ah bah casque est donc efficace.
Pour les traumatismes.
Il peut être efficace. Oui.
À défaut d'être pertinent, il est efficace.
Voilà. Oui, voilà, c'est ça.
Mais j'en viens au point le plus intéressant. Donc ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est la conclusion. Qui dit qu'au quotidien, le vélo n'est pas si dangereux que ça. Et que si on devait porter un casque pour toutes les situations à risque, il faudrait commencer par en porter un en voiture.
Oui, donc, 50% des décès d'automobilistes sont dus à des traumas crâniens.
J'ai développé tout ça dans mon intervention, donc je vous laisse l'écouter sur le site de La Vie des Moutons. Je vous mettrai le lien dans le billet du podcast. Mais voilà, comme on le sait déjà, le problème des casques... Alors, je ne parle pas de la pratique sportive, ni en VTT, ni en course, où de toute façon, d'abord, on nous impose d'avoir un casque. Et comme
les pilotes de rallye ne sont pas tête nue.
Voilà, non plus. C'est ce que je dis, exactement ce que je dis dans mon intervention. mais dans l'usage urbain, d'abord, d'abord pour la première raison qui est que beaucoup de casques sont mal portés et donc soit ne tiennent pas sur la tête au moment où on va se casser la figure et donc ne sont plus présents sur la tête quand on touche le sol, soit sont abîmés, sont mal portés, donc ne protègent pas là où ils devraient, ou glissent au niveau de la, bon, de se protéger, enfin ne protègent pas. Donc déjà ça élimine énormément de casques et puis surtout la topologie des accidents en ville. Qui fait que la tête n'est pas l'élément qui touche le plus. Alors bien
oui,
sûr,
voilà,
comme... vas-y. Oui.
Mais justement, je remarque que c'est plus souvent, enfin, c'est quasiment tout le temps en cas d'accident avec une voiture que la tête va toucher. Si on percute un élément du décor ou un véhicule plus faible que le vélo, il y a peu de risques de toucher la tête. Mais c'est vrai que c'est avec la voiture que ça va être le plus dangereux.
Et même, enfin, moi j'ai eu un accident avec une voiture. Tu me diras, j'avais pas de casque ce jour-là, mais ce qui a touché, c'est pas le crâne, c'est le menton. Donc,
ce qui veut dire qu'il est comme ça naturellement. Hein. C'est pas suite à un accident où il a tapé la tête. Non, mais on en revient à ce qu'on dit depuis quelques épisodes déjà. La configuration du vélo urbain, ses faibles vitesses et son environnement de plus en plus apaisé font que le casque n'est absolument pas pertinent en termes d'usage. Si on a des problèmes à régler pour les accidents, il faut les concevoir en amont avec des bonnes infrastructures, oui, et de la bonne prévention auprès de l'automobiliste.
Ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Si vous voulez porter un casque,
portez-le, il n'y a aucun problème. On n'incite absolument pas
à la seule chose qu'on ne veuille
porter
pas,
un casque de bonne qualité, bien réglé, à votre taille.
Et on va même le dire, Grincheux, lorsqu'il transbarde ses schtroumpfs, il porte un casque, et moi... Non ?
Rarement.
Quand t'es avec tes gamins ?
Rarement.
Ah ouais ? Tu leur montres pas l'exemple
Non.
Je croyais que c'était pour leur faire enfiler plus facilement, en fait.
La dernière fois que j'ai mis un casque en ville, c'est parce que je me suis coupé les cheveux et que j'avais froid à la tête.
Alors après, moi, je suis un peu plus de l'autre côté de la barrière en ce qui concerne les casques. Justement, je suis vraiment... J'étais pas tant comme ça il y a un an ou deux, mais maintenant beaucoup plus. D'une première part, parce que j'ai un ami qui s'est pris un accident avec une voiture, qui a percuté la tête très fort, et que du coup maintenant il a opération sur opération au niveau du cou, et c'est très compliqué pour mener une vie normale. Et ensuite,
mais c'est Uber.
C'est Uber, oui.
Ouais, d'accord.
un ami commun. Et du coup, également, parce que, ben voilà, j'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis de mon travail, je suis sur la route à vélo à assez haute vitesse pour de l'agglomération, entre 4 et 8 heures par jour. Et du coup, là, le casque, pour moi, est très indispensable.
C'est ça. Mais après, chacun voit midi devant sa porte. C'est-à-dire que
c'est
quelqu'un qui fait un quart d'heure de vélo par jour, aller un quart d'heure retour, c'est peut-être pas nécessaire. Mais effectivement,
pour les vélos taffeurs assidus, moi, je le recommande.
Voilà. Mais si tu veux, ce qui se passe, c'est que ici, on pense qu'il vaut mieux à tout prendre. Si on doit choisir entre faire du vélo avec un casque ou pas faire de vélo, enfin, faire du vélo sans casque ou pas faire de vélo, il vaut mieux faire du vélo sans casque que de pas faire de vélo, quoi.
C'est ça. C'est pour ça que vaut mieux pas que ça devienne obligatoire.
Voilà, c'est ça. Si tu veux, c'est notre position.
Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de faire du vélo.
Voilà. Après, c'est un résultat qui a été mesuré dans tous les pays qui ont obligé le port du casque.
On enregistre chez moi. Tu as vu que j'en ai un. J'ai mon gros casque allemand. Parce que c'est l'amylose. Hein?
Qui sert à ranger les clés.
Non, je le porte.
Il y a les clés posées dedans.
Je le porte. C'est vrai qu'il est pas très aéré, ça va pas être bon pour l'été.
Avec qui j'en discutais, peut-être avec ma frangine, c'est un peu la même position que dans l'équitation. C'est-à-dire que dans l'équitation en compétition, la bombe est obligatoire. Dans l'équitation de loisirs, elle est fortement conseillée en club. On se retrouve avec beaucoup de gens qui ont des vieux équipements. Pas la taille, pas adapté, plus en état, et qui, quand ils chutent, ne sont d'aucun intérêt. Donc, ce qu'il faut être vigilant, si vous souhaitez porter un casque, vraiment, c'est d'avoir quelque chose de bonne qualité et en bon état.
Et typiquement, moi je suis ancien motard, un casque de moto, sa durée de vie, c'est selon la nature, la matière dans laquelle il est fait, c'est 3 à 5 ans. Parce que les plastiques vieillissent et n'ont plus leurs propriétés d'amortissement et de répartition des chocs au-delà de ces durées-là. Donc il y a des gens qui, à moto, continuent à porter des casques qui ont 5-10 ans et ils sont même pas dans la légalité, parce qu'un flic pointilleux va regarder la date de fabrication et va leur dire non, ton casque là il est pas bon. Et...
Ah, tu veux dire qu'il y a une vraie date de validité pour les casques?
Oui, l'étiquette NF à l'intérieur des casques, t'as la date de fabrication.
D'accord, et donc du coup, passer la date, t'es plus censé t'en servir. Ou légalement.
Au-delà de 5 ans, légalement, t'es plus censé t'en servir. J'ai jamais vu ça contrôler, mais c'est pareil, si t'as un accident et que t'es un légume, et ben ton assureur qui veut pas payer une invalidité pour un légume,
il peut contre toi. Oui,
voilà, il peut.
S'il y a jurisprudence avec la validité du casque. Ouais.
Il peut faire jouer ce genre de truc.
Mais c'est à peu près la même durée de vie d'ailleurs pour
oui,
un casque.
Pour un casque, il n'y a pas de raison. Les matériaux sont les mêmes. Il n'y a pas de raison, sauf que vous jouez à vos tests surprise. On n'en parle jamais. Personne ne vous a jamais dit en vous vendant un casque, là ce casque, il faut le garder 3 ans et puis après il faut changer.
J'ai toujours eu des casques à témoin, moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand le témoin est pété, ça veut dire qu'il est plus bon. Et effectivement, moi, ils ont toujours pété avant 3 ans. Donc c'est pour ça. Mais oui,
le témoin fonctionne bien et pète à la date de péremption. Ou avant la date de péremption.
Il suffit les petits chocs quand tu le poses un peu trop fort, etc. Et oui, il finit par péter, ouais.
Ça marche comment, un témoin de casque?
Un témoin de casque, t'as un petit. Une des petites barres, tu sais, entre les trous d'aération à l'arrière, qui est un peu fine. Et si elle est cassée, ça veut dire que ton casque, il est mort. Mais c'est sur les casques de sport, ça.
D'accord.
C'est sur le gros casque de skate que j'ai, là, ça marche pas.
Oui, sur un bol, ça marche pas, d'accord.
Sur un bol, ça marche pas, mais sur les gros bols en polystyrène, t'as un petit témoin. T'as un témoin de cassure. Ouais. Et à chaque fois, moi, ceux que j'ai eu, les Abus, les Ikoi et tout ça, c'était...
Bon, faut que je check les miens, alors, parce qu'ils sont pas vieux, mais...
Ouais, c'est ça.
Merci, voilà. Professeur Proc.
Merci, Professeur Grinch,
surtout. Ouais.
Je vous en prie.
Je crois qu'il te reste une news, Proc.
T'en restes plus, Grinch?
Ah, moi, il m'en reste deux.
Oh là là.
Ah, bah écoute, je te les laisse, alors. Je te les laisse.
Deux.
Bah, je te laisse les deux, vas-y.
Mais t'as encore une news, ou pas?
Moi, ça sera la dernière, si ça te dérange pas.
Moi, j'en fais une, tu fais la suivante.
Non, je la garde à la fin. Vas-y, feu. Amuse-toi.
Alors, si je vous dis Slada, oui, Slada, avec 2D.
Et avec un machin bizarre sur le A, non?
Je l'ai pas vu, mais vous êtes dans le bon. Donc, de quoi s'agit-il? De Vélopardi.
Ah, moi, je pensais que c'était les voitures, tu sais, les vieilles voitures d'Europe de l'Est qui. Bref. Non.
C'est les Trabants, ça,
je
confonds.
C'est Lada.
Alors, avec un nom pareil, ça sent bien le pays nordique et le bois en aggloméré. Donc, ce n'est pas un vélo en bois. Mais vous n'avez pas totalement tort, car c'est le nom des vélos que s'apprête à vendre le géant suédois de meubles en kit, Ikea pour ne pas le nommer. De toute façon. Donc voilà, ils ont présenté ça il y a quelques semaines. Donc c'est le premier modèle sera disponible dans tous les magasins dès cet été. Donc c'est annoncé pour disponibilité mondiale pour le mois d'août.
Ah, c'est pas que en Suède.
Non, c'est pas que en Suède, non, c'est partout. C'est un modèle urbain, donc avec un cadre mixte ouvert, équipé de garde-boue, d'une transmission SRAM automatique, donc à deux vitesses automatiques.
J'en ai une, c'était pas si dégueu que ça. Hein.
Alors, j'ai pas vu de détails des équipements précis, mais de ce que j'ai vu des photos, donc t'as un frein arrière à rétropédalage et un frein avant à disque.
C'est par défaut sur les SRAM, en fait, le rétropède.
Voilà. Alors après, bon, là où je tique un peu, c'est au niveau du prix, parce que le modèle de base... Il est proposé à 699 €. Donc elle... voilà.
Combien?
699 €. Voilà, vu l'équipement, je trouve que c'est très cher.
Ça va marcher en Allemagne. Parce que. Où le prix le plus moyen du vélo est à 400 €.
Alors, je crois qu'il a un moyeu dynamo, mais je suis pas sûr.
Bah oui, mais effectivement, le frein à disque avant et puis du rétropédalage arrière avec de la transmission SRAM, c'est vrai que c'est un petit peu trop luxe.
C'est
Ah oui, ok.
Voilà, c'est ce qu'on trouvait sur les tilts.
Exactement, c'est sur mon tilt que j'avais ça.
C'est ce qu'on avait
T'as eu un tilt, toi?
Ouais.
Mais
oui, je l'assume, j'ai eu un tilt, c'était super rigolo.
Et donc,
c'était
y aura
mon vélo à aller chercher le pain, et j'adorais ça.
D'accord.
Il y aura des options avec, donc un porte-bagages.
Des options payantes?
Oui.
Plus que 699 voilà. euros?
Donc, porte-bagages, porte-paquet à l'avant, et une remorque.
Voilà.
Et est-ce qu'ils disent avec quel meuble c'est compatible? Genre quel meuble on peut aller chercher chez Ikea avec leur vélo Ikea?
Il y a
un truc que t'as pas dit, c'est que c'est un vélo qui est à courroie.
Oui, il est à courroie, c'est vrai.
Oui, parce qu'en fait, je suis un sale fumier, c'est-à-dire qu'au moment où il en parle, moi je vais sur mon PC et je vais regarder sur internet.
Mais bon, malgré tout, il a un look pas dégueu. Hein,
c'est un a priori un cadre tout à fait standard.
Il est beau.
Oui. Mais voilà, 699 euros. À la rigueur, moi je l'aurais vu à 699 euros avec les porte-bagages et le porte-paquet avant. Déjà, ça passait mieux.
Ouais, et puis un Nexus 7 quoi. C'était exactement ce que j'allais dire. Il y a voilà. Frein à disque à l'avant. Parce que le porte-paquet à l'avant, le porte-bagages à l'arrière, c'est en option.
C'est en option, oui.
Ah merde, ah oui, alors non, effectivement, trop cher.
T'as des systèmes d'attache rapide dessus, donc tu peux l'installer facilement. C'est pas un truc qui est compliqué à fixer, mais.
On sait en quoi est le cadre, en alu, je suppose.
Sur. Ouais, vu la taille des tubes.
A priori, là, le.
Vu la taille des tubes, je pense que c'est de l'acier.
Parce que c'est pas des tubes surdimensionnés, ils sont juste simplement cintrés, donc là, c'est de. Le professionnel donne son avis, c'est de l'acier.
Merci, professeur Félix.
Ça serait beaucoup plus court, bah, je pense. Ça serait de l'hydroformage.
Surtout beaucoup plus gros. Surtout beaucoup plus gros.
Ouais.
Et donc.
C'est des photos, ça, ou c'est un concept en 3D?
A priori, c'est des photos.
Enfin,
bon, après. Voilà, on cadre fait, garanti. On fait des beaux trucs en 3D maintenant. Donc,
ouais. Cadre garanti 25 ans.
Oui.
Ouais.
Ouais. Donc fait l'équipe, c'est de l'acier.
Ça clique ouais. Au bout de 10 ans, ouais. Ah, et puis alors, chez
alors par contre, question, la remorque, elle est vendue toute seule?
Alors, elle est vendue toute seule, mais je suis pas sûr qu'elle soit compatible. Il y a peut-être une attache à la con qui est intégrée sur le cadre et que tu.
Bon, normalement, avec une clé IKEA, je la monte sur n'importe quoi.
J'aime bien parce que Will, ça fait exactement la même vanne pourrie dans son article. Entre parenthèses, donc, avec une potence réglable en hauteur, entre parenthèses, et espérons-le, la clé Allen fournie.
Rien à voir, Will, j'aime beaucoup ce site.
Oui,
pas mal de temps, très très bien. D'accord, ok. Donc
voilà. Je trouve que c'est une bonne chose. Que dans l'esprit que l'esprit des gens, on trouve des vélos maintenant, même chez Ikea.
C'est mieux qu'à Carrefour, en tout cas.
Oui, mais voilà, ça montre que le vélo se démocratise. Mais voilà, je 699 euros pour le vélo nu. Je trouve
honnêtement, je trouve que c'est trop cher aussi pour un vélo urbain. Moi, pour avoir gardé ce genre de ce qui est considéré comme déjà du haut de gamme en France, à ce prix-là, on trouve des vélos avec avec du moyeu.
T'as un Triban 5 ou
ou si 7, tu tapes chez des marques comme Giants, P, Bergamont, Winora, des marques pas dégueu. On trouve des vélos mieux équipés.
Et sans même parler de ce qu'on va trouver en location.
Félix ?
Oui, non, j'y avais juste rajouté Trek à la liste.
Voilà, enfin bon, la liste, voilà, on peut la continuer longtemps.
Des marques reconnues dont c'est le métier. Je critique pas la qualité du vélo d'IKEA, je dis juste que des équipementiers et des vélos, des marques de vélos dont c'est le métier, voilà, proposent des choses, à mon avis.
Je te suis là-dessus, oui.
Et il reste une grande interrogation. Comment sera vendu le vélo ? Parce qu'en France, la vente de vélos en kit est illégale.
Non, ils ne sont pas vendus en kit.
Il me semble bien que, on doit vendre un vélo monté en France. Monté, on n'a pas le choix.
Légalement, il doit être monté et réglé.
Sur les images, on ne voit pas d'éclairage.
Oui.
Alors après, il y a des manières de le contourner, les passe-droits, qui sont pas tout à fait, qui sont largement critiquées. La vente de vélos par internet permet de contourner cette législation. Et du coup, voilà. Après, il y a pas de service après-vente parce que à tout à chacun de monter son vélo, et ceux qui sont pas mécanos et qui le montent chez eux et qui après ils se plantent avec, voilà, donc ça cause toute une série de problèmes. Et effectivement, je doute que la distribution du vélo IKEA se fasse en kit.
Voilà, je pense pas qu'ils aient de mécanos CQP chez IKEA.
C'est ça. Oui, et puis en plus, voilà,
putain, déconne, j'ai un avenir IKEA, en fait, avec ma formation.
IKEA, le but, c'est que tu viens chercher ton truc en kit, tu l'amènes dans une boîte, comme ça prend moins de place, et puis tu le montes chez toi.
Voilà.
Sauf qu'un meuble, ça a moins de contraintes, tu peux avoir moins d'accidents avec un meuble, quoique.
Quoique, sur des lits superposés.
Mais voilà, moins d'accidents avec un meuble qu'avec un vélo. Tu croises moins d'usagers, on va dire. Avec ton lit, tu croises moins d'usagers.
Oui.
Voilà. Ça dépend. ça dépend du charme.
Ça dépend, ça dépasse.
L'intention est louable. Je trouve ça bien. Après, j'aimerais bien l'essayer, en fait.
Bah, voilà, pareil, je me dis que cet été, je vais aller chez IKEA juste pour voir la gueule du vélo, le toucher, le voir de près.
Je crois qu'on va y aller tous les trois, en fait. Tous les quatre avec Mogor. Félix, il est au coin.
À l'IKEA, où il n'y a pas de parking à vélo.
Si, il y
en a maintenant.
Ils l'ont remis.
Les trois principaux chiens d'IKEA Saint-Priest sont là.
On y est allé une fois avec...
Avec moi.
Avec Proc, tout à fait, pour acheter son matelas
de mémoire. C'est ça.
On leur a dit... Il n'y a pas de parking à vélo. Ils nous l'ont dit, droit dans les yeux, sans trembler les genoux. Oui, on nous l'a volé.
Et c'est parce qu'en fait, alors moi, il y avait deux semaines avant, il y en avait un autre qui était passé.
Mais moi, on m'a dit totalement autre chose. C'est qu'ils avaient fait des travaux, ce qui était vrai.
Oui, il y avait
des
travaux.
Ils avaient refait l'enrobé niveau
juste devant,
du parking à vélo. Donc, il y avait toujours affiché au mur le parking à vélo, mais il n'y avait plus d'arceau, plus rien. Et moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est oui, mais on a commandé les pinces roues. Enfin, ils m'ont pas dit les pinces roues, mais j'avais bien compris ce que c'était. Et on attend la livraison des nouvelles attaches à vélo.
Non, mais nous, ça devrait très bien aller comme excuse.
Et ça, c'était 15 jours avant qu'on passe, toi et moi, à Warthog.
Et donc, après, j'aurais refait la remarque. Oui, mais il y a deux mois, regardez, j'ai une photo datée d'il y a deux mois. C'était déjà pas là.
Peut-être que ces grinchots qui passent la nuit volaient les pinces roues d'IKEA pour les faire chier, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Bah, ce serait des
arceaux. Vous savez mettre des épargnes d'un chien.
Ce serait des arceaux bien foutus, je dis pas, mais des pinces roues, je sais pas ce que je vais en foutre.
Toujours mieux que rien, tu me diras.
Pas sûr.
Hop.
C'est un peu le vol, sauf si t'as une chaîne.
La détérioration des roues.
Et que tu chopes les haubans.
Faut être équipé en gros d'antivol, parce que la plupart des gens maintenant s'équipent en U. Fixé sur le cadre, et du coup t'es bien emmerdé, sauf si t'as une attache rapide anti-vol sur ta roue avant, ce qui n'est pas toujours le cas.
Et oui, non, je sais.
Bon,
ben voilà.
Eh bien, je sais pas comment on dit merci en suédois, mais glute flûte.
Alors, bon, je vais faire ma dernière news. C'est une news que j'avais depuis longtemps aussi, que j'avais oublié de vous sortir il y a longtemps. Vous êtes fait offrir un nouveau GPS Garmin 510 ou 810 pour Noël.
Félix est en train de faire « Ouais !» derrière.
Ou vous l'avez acheté sans le dire à votre femme.
Moi, je me le suis fait offrir.
Ouais.
Et vous n'avez pas pris la carto parce que vous trouvez que celle de Garmin est trop chère. Et
chérie, j'utilise mon téléphone comme Garmin, comme GPS, pas besoin d'un Garmin.
Vous n'avez qu'à avoir des amis meilleurs qui vous offrent des GPS avec des cartographies. News suivante.
Moi, en tant que geek, je me suis dit, je vois le prix des cartographies, je vais bien trouver une solution pour pouvoir y coller une cartographie OpenStreetMap. Et j'ai bien fait parce que j'ai fini par trouver...
Sur The Pirate Bay.
Non, oui, j'ai trouvé aussi celle-là, mais j'ai même pas installé en fait. Je l'ai même pas installé pour tout te dire. Mais sur OpenStreetMap, j'ai trouvé un site qui te permet de récupérer... Donc, qu'est-ce qu'OpenStreetMap ? C'est une cartographie open source, collaborative, de bonne qualité. Et donc, j'ai trouvé un site qui permet justement d'utiliser la cartographie OpenStreetMap et de la mouliner pour l'exporter au format qui va bien pour Garmin. Et donc, après, on recopie ça sur une carte SD, donc il y a toute la procédure. On crée le répertoire machin Garmin.
Ça fait un export de la carte au format Garmin, en fait. Voilà. C'est ça que tu es en train de dire.
Et donc, tu prends ta carte SD ou dans la carte intégrée, dans la mémoire intégrée de ton GPS, tu lui colles le ou les fichiers de carto et tu mets ta carte France, ta carte Suisse, ta carte Belge.
Alors, le bémol que tu nous précisais tout à l'heure, c'est que... Il y a un nombre limité, tu peux pas tout mettre.
Voilà, on peut soit choisir des pays complets, donc moi j'ai pris soit choisir tuile par tuile, donc les tuiles sont des zones géographiques plus petites, pour pouvoir dire, moi je fais du vélo que dans tel et tel coin, je vais pas m'encombrer à avoir toutes les cartes au France, alors que je vais jamais aller dans les Pyrénées, je connais personne là-bas, et puis le jour venu, il sera toujours temps d'ajouter cette carte-là.
Voilà, après ça se fait au fur et à mesure.
Tu peux le faire au fur et à mesure, oui.
Moi, c'est ce que je fais continuellement avec OpenStreetMap.
Mais et donc, on peut soit choisir des pays complets, donc enfin des pays ou des régions complètes, soit on choisit tuile par tuile et on définit la zone qui nous intéresse. Alors je m'étais dit, tiens, je vais me faire la France et puis je vais rajouter parce que j'ai des copains en Belgique, ça peut m'arriver d'aller en Belgique. Je vais rajouter la carte belge en plus et puis le Luxembourg parce que on sait jamais si je déborde sur l'Allemagne ou sur bon voilà.
En Allemagne, c'est la carte Eiffel.
Tu l'as mérité celle-là.
C'était pour varier un peu aussi. Bon, et puis là, le site m'a dit Nine. Non, c'est un site français en plus. Non, d'ailleurs, je sais pas si le site est français. En fait, le site français que j'ai, c'est le site du tuto qui explique comment télécharger des cartes gratuitement. Mais donc, voilà, si on choisit tuile par tuile, on a une limitation au nombre de tuiles. Alors, je me souviens pas du nombre. Mais on peut pas faire toute la France en tuile par tuile plus la Belgique.
Est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que les tuiles sont plus détaillées que tout le pays ou pas?
Je crois pas, mais ça permet de combiner plusieurs cartos ensemble.
Ouais, d'accord, ok. Je pense que sinon, si t'es sur plusieurs pays, voilà, du coup,
tu vas charger la France, puis la Belgique, puis ceci, et avoir que tu switches d'une carte à l'autre.
D'accord. Ok.
Bon, pour l'instant, je suis pas sorti de France, donc j'ai jamais eu besoin de changer quoi que ce soit, et ça marche très bien.
Je vais faire un aveu de mes alliances. Ma mère et mon beau-père sont des camping-caristes.
Tu l'as déjà dit.
Ouais, je l'ai déjà dit. Donc, et j'étais en train de me dire ça pourrait intéresser mon beau-père. Mais en fait, quand je le vois devant un ordinateur, je me dis non, il aura jamais la patience de tout télécharger.
Il va s'acheter des cartes sur papier et puis il sera très content.
Il les a déjà. Bah, voilà. Mais il a le Garmin. Il a le Garmin, mais.
Mais il a un camping-car pour les ranger surtout.
Voilà, c'est ça. Il a un Garmin avec la carte française, un Garmin avec la carte belge.
Il a un Garmin spécial camping-car.
Non.
Si.
Ah, pour avoir les trucs où tu peux pas passer en camping-car quand t'es trop haut. Et,
tu rentres les mesures de ton camping-car.
Et les points d'intérêt sur les zones de vidange et compagnie.
C'est exactement c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein. Tout à fait.
C'est fantastique.
Ah ouais, c'est vraiment fait.
C'est vrai que nous, cyclistes, on a tendance à vidanger un peu partout. C'est dégueulasse. Mais...
Non, il manque un point d'intérêt avec les cimetières pour les cyclistes. Ouais, pour pouvoir faire le plein d'eau.
Pour pouvoir faire le plein d'eau.
Toi et moi, on a vérifié que c'est pas vrai.
Il existe, je l'utilisais énormément pendant mes voyages à vélo, le point d'intérêt cimetière. En fait, j'ai fait un filtre personnalisé avec les cimetières, les points d'eau potable, les toilettes publiques, et puis voilà, et ça fait vraiment, pour trouver de l'eau tout le temps, quel que soit le pays.
Parce que nous,
en Ardèche.
En Ardèche et dans le Vaucluse. On a testé avec Grinch, ouais, on a fait une reconnaissance d'une rando. On est tombé sur deux cimetières où il n'y avait pas de flotte.
Non. Le premier cimetière, il n'y avait pas de flotte. Enfin, le robinet était. Il n'y avait pas le robinet sur le robinet, donc on ne pouvait pas l'ouvrir. Et le deuxième était de l'eau non potable.
C'était l'eau du Rhône, en fait. C'était à Caderousse, juste avant le barrage. Tu as un cimetière. Et en l'occurrence, ils ont un déversoir pour remplir les remorques qui servent à irriguer les champs, si tu veux.
D'accord.
Et le déversoir, il y a un petit robinet sur le tuyau, quoi. Donc tu peux remplir ton seau pour aller arroser tes fleurs pour les défunts.
Boire, si tu veux pas,
mais faut pas la boire parce que c'est celle du Rhône,
si
quoi.
Si tu veux pas avoir une crise de foie et tout ça.
Ah non, mais là tu chopes carrément,
la tourista, voilà. Les bolas, je sais pas, mais la tourista, ouais.
Et les fleurs du cimetière, elles sont jolies avec tous les PCB qu'il y a dans le Rhône, ça va, ça.
Ouais, ça va, tu vois.
Elles brillent la
nuit, ça brille par contre.
Tu m'étonnes.
Voilà.
Bon, ben voilà, moi j'avais fini.
Merci Grincheux.
J'ai fini mes news.
Et il en reste une petite pour Proc.
Alors, j'ai insisté pour avoir la dernière parce qu'on va terminer sur une note positive. Qui va toujours chez Carrefour?
C'est pas positif chez moi?
si, mais celle-là, elle est un peu poétique, vous allez aimer. Avant, après, Paris, Lyon, Toulouse.
Ah,
alors, je
l'ai
lu permets,
celle-là.
Il faut savoir
elle est chouette.
Et ouais, tout le monde est un peu plus ou moins en face de mon écran. Donc en fait j'ai coupé le 36-15 là. Non, ça c'est vieux con de dire ça. Voilà, mais du coup je fais pas de bêtises sur mon écran, hein, ils les voient tous. Et en fait voilà, je vais vous montrer Urbi-I.
Je voulais en parler, j'ai complètement oublié. Mais oui.
Et ben voilà, je t'ai grillé.
Non mais tu fais bien.
Non, ça j'ai vu, c'est super chouette.
Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un site. Donc je vous redonne l'adresse www.urb.com. On mettra le lien. Et en fait, c'est un site
brésilien
qui vous montre des photos des villes avant et après.
Après l'opération au Brésil.
Voilà, non, avant et après les aménagements cyclables, entre autres. Je prends le world map.
En fait, il se base sur les photos Street View.
Oui. Voilà. En fait, avant et après les rénovations, et on peut voir l'évolution en termes d'urbanisme. Je ne vais pas utiliser de termes connotés au vélo, d'urbanisme simplement, en fonction des changements, quoi. Je crois que c'est participatif. On peut leur soumettre des choses.
Ça, j'ai pas vérifié, mais c'est bien possible.
Il me semble avoir vu un lien pour soumettre.
Ça serait bien l'esprit.
Et en fait, ça permet de se rendre compte que, globalement, le monde s'arrange. J'ai envie de vous dire.
Et oui. Alors là, par exemple, je vous montre une photo. Donc ça, vous reconnaissez, c'est la place des Jacobins. Non, qu'est-ce que je vous dis? Si, c'est la place
c'est la place des Jacobins.
C'est ça. Donc vous voyez, avant, plein de parkings, des bagnoles de partout.
Et comme c'est des photos Street View, c'est pas avant, il y a 50 ans, quoi.
Voilà, c'est en 2008.
2008-2014, il y a 6 ans. Voilà. Et d'un coup, on se retrouve avec une grande place aménagée pour les piétons, tout ça.
Bien
un contresens cyclable ici, aéré. C'est agréable, on a envie d'y marcher, on a envie de s'y poser.
moi je vais faire mon casse-couille, ouais. Mais en fait c'est vrai qu'il y a moins de place pour les voitures, c'est un peu moins terrain de jeu pour des petites voitures pour aller de, ouais. De son sa maison jusqu'au travail jusqu'à la boutique pour acheter des petits trucs. Mais par contre, moi je là on voit la place des Jacobins, celle du bas qui est après, c'est mieux, mais c'est quand même recouvert de béton. Alors que pour moi,
ça serait bien que ce soit plus vert.
Ma ville utopique.
Je suis d'accord avec toi sur Jacobin, ils ont bétonné à mort et c'est pas folichon. On est bien d'accord.
Mais quoi qu'il en soit, après voilà, je termine là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, même après des places qui sont un peu plus vertes, voilà, là on voit un petit peu d'ailleurs celle qui est avant qui est plus verte qu'après, mais
général brossé, ouais.
Mais le problème c'est que du vert c'est bien, mais en fait il faut se réapproprier, enfin à mon sens, faut se réapproprier les centres-villes pour en faire aussi du vert à manger. Parce que
je suis entièrement d'accord.
Voilà. Et également parce que le bétonnage à outrance fait que on garde la chaleur, on augmente la chaleur, de la température des villes, et en augmentant les zones vertes, on va rafraîchir les villes.
C'est ça.
On revient sur Grenoble. À Grenoble, les gazons, si tu veux, de place, sont alloués aux citoyens qui en font la demande pour pouvoir faire des petits potagers, ouais.
Ouais, c'est ça. Endroit. Et voilà, on voit bien que ça fonctionne très très bien ouais. Dans le 7e et puis dans le 5e, il me semble aussi qu'il y a des jardins partagés. Ça fonctionne très très bien, mais ils sont assez saturés. Il y a plus grand monde qui peut s'y rajouter. Mais du coup, il en faut de plus en plus. Et que les gens se réapproprient aussi la culture de la nourriture. Et c'est possible de le faire en ville, surtout s'il y a moins de pollution de l'air.
Alors sur la démarche globale, je suis entièrement d'accord avec toi. Après là, l'avantage de ce petit truc, si tu veux, c'est de voir un petit peu comment les axes de circulation ont évolué.
Ah non, après ça reste positif. Hein,
voilà,
c'est sûr,
ça reste très
fait plaisir à voir.
Bah, là, tiens, tu vois, avenue Général Brossé, on voit justement qu'on a gagné en espace vert.
On a viré du stationnement. Ce que je trouve chouette, c'est que la plupart du temps, on a viré du stationnement. Donc de la place qui est accaparée par les voitures dans leur temps inutile de fonctionnement et récupéré pour de l'espace public utile. Ça, c'est chouette. Voilà. Ils vont avoir plein de boulot. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la mairie de Paris qui a annoncé la réfection de
11 grandes places, oui.
Dont Nation,
Étoile,
dont Bastille. Non, pas Étoile.
Pas Étoile, mais...
Il y a Bastille, il y a
Italie.
Enfin, voilà, énormément de grandes places, dont beaucoup qui sont dédiées à de la circulation. Hein, Bastille, Nation, tout ça, ça reste des énormes carrefours.
Pour parler des quartiers que je connais bien dans Paris, la place d'Italie à vélo, c'est un bonheur.
Donc c'est le genre de d'évolution qu'on pourra voir dans
exactement.
Urbe-i. Je vous invite, si vous habitez dans une grande ville, à aller voir un petit peu. Malheureusement, si vous êtes dans une ville de moyenne importance, je pense que vous ne verrez pas beaucoup d'évolution. Tiens, on va faire un petit test.
Si vous avez des changements à leur soumettre, n'hésitez pas.
N'hésitez pas. On va aller faire un petit tour très simple. On va aller vérifier la chose. Hop, je descends jusqu'à Valence, la ville de mes beaux-parents. Et non, il n'y a rien, que dalle, ma cache de la caillasse.
Ça peut aussi être parce que la Google Car n'est pas passée si souvent que ça.
C'est possible aussi, ouais.
Non, mais c'est Valence. C'est du côté gauche du Rhône. C'est bon, il passe. C'est du côté droit où il n'y a pas encore l'électricité en Ardèche, voyons. Merci. Je vanne ma propre région, ça va, j'ai le droit.
C'est pas pour te vanner toi, c'est pour illustrer tes propos.
Voilà, c'est ça. Les bleds où les corbeaux volent sur le dos pour pas avoir la misère.
Après, on remarque que sur la carte, là, à part Lyon, dans la région Rhône-Alpes, il n'y a rien en fait. Donc,
c'est
les villes majeures.
Ah, mais c'est à part Lyon, il n'y a rien dans la région Rhône-Alpes de toute façon.
C'est Turin, vrai. Merde. Chambéry.
Ah, Chambéry, bah voilà.
Voilà, il y a Chambéry. Hop, voilà, la rue du Fraisier, il y en a une, putain. Bordeaux, Paris, voilà. Mais bon, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu. Et puis c'est intéressant de voir un petit peu les évolutions. Ah, Toulouse, tiens, Toulouse, Milan, Barcelone. Donc allez faire un petit tour, ça peut être informatif. Et puis soumettez, hein, il faut. C'est un joli projet, c'est un projet qui me paraît assez poétique de montrer un petit peu l'évolution de la ville au travers de Street View. Voilà.
C'est plutôt des bonnes évolutions, quoi. Ça va dans le bon sens.
Maintenant, moins de béton aussi de couper. Fermer claquer un peu des rabat-joie qui sont oh non, c'était mieux avant et tout. Tiens, bah regarde, comment c'était avant, comment c'est
Pierrot, si tu nous écoutes.
Voilà, Pierre, on t'aime.
Alors, on va
Mais bon, je rejoins Félix. Plutôt que de mettre du béton et de la pierre, il faudrait peut-être mieux mettre du gazon ou de la terre pour.
Là, on est sur des équipements qui ont déjà été modifiés. De ce qu'on voit, a priori, sur les projets, c'est pris en compte. À Lyon, en ce moment, il y a la réfection de la place des terreaux qui va commencer. Et a priori, ils ont pris en compte ça. Et dans la mesure du possible, parce que ça reste quand même un chantier un peu compliqué avec le parking en dessous et l'existant, mais il y aurait un peu plus de verdure intégrée.
Là, tu vois, j'entends Grincheux pouffer, je suis sûr qu'il a eu un nom qui est venu en tête, c'est Buraine.
Non, je repensais à la vision du parking sur les cartes Google Maps. Et en fait, le parking est tout en longueur avec deux tourniquets pour monter et descendre qui sont tous les deux à une extrémité. Et quand on voit le parking qui est représenté, ça fait une grosse bite au milieu de la place.
Mais après, c'est vrai qu'on peut se demander comment ça va être... ce genre d'infrastructure si effectivement il y a plus de verre dans les villes, quand on voit que le peu de verdure, comment il est traité, par exemple les quais de Saône du premier jour de beau temps au dernier jour de beau temps sur les berges du Rhône, qu'on voit que c'est un dépotoir constant. Et après il faut aussi qu'il y ait un net changement dans les mentalités, mais ça viendra après,
j'imagine. Ouais, bah déjà il faudrait commencer à faire de la consigne.
Tout à fait, oui, ça faut qu'on y arrive.
Si t'as des adresses pour la consigne à Lyon, je suis preneur.
Pourquoi pour qui font déjà la consigne ou pour
des gens qui font de la consigne, moi ça m'intéresse.
Ouais. Ben trois petits pois dans septième.
Trois petits pois, d'accord.
C'est l'épicerie bio tout en vrac.
On voit ça en off.
Tout à fait.
Ça marche. Ben voilà, c'était ma dernière news, donc je crois qu'on y est. Hein.
Je crois qu'on va mettre des quotas sur les news, les gars, parce que là j'en avais pas. Hein. On en est à 2h30 de news. Là les gens dorment ou sont partis faire du vélo, clairement. Donc on va mettre des règles strictes et implacables.
Eh ben écoute, bon. À tout seigneur, tout honneur.
Voilà, donc il y a pas de dossier aujourd'hui puisqu'on a un invité, non?
Moi j'avais un dossier au besoin.
T'avais un dossier au besoin.
Moi aussi, mais peut-être qu'on le garde pour le 19, comme tu veux.
Oui, moi
le 19. Ouais, parce que sinon en fait ça va faire un truc de plus de 2h30. Ouais.
Après c'est toi qui monte, hein, nous.
Bon. À monter c'est pas trop le problème. Hein.
Bien, on va laisser la parole à notre invité. On décidera ensuite ce qu'on fait en fonction des humeurs de
l'heure. Oui, non mais voilà. Donc, de l'heure qui sera. On va déjà commencer par cuisiner Félix.
Surtout que les mecs, ils m'ont vu discuter sur Facebook en loose day, ouais, avec ma meuf qui a dit ouais, on a bientôt fini de bouffer, on va rentrer. Elle va rentrer de chez les potes.
Donc, <Voilà. rire> Donc du coup, dans une demi-heure, il a plus aucune attention, il voudra se barrer.
T'es vache, c'est pas vrai. Une heure.
Nous avons donc un invité, Félix, qui en plus d'attirer les chats, est un voyageur au long cours à vélo et vient nous parler de ses aventures.
Et de ses projets.
Et de ses projets. Je te laisse la parole, Félix.
Merci. Oui, du coup, alors je suis pas un voyageur à vélo de longue date, mais je suis quand même amoureux de cette pratique au demeurant. Et dans mes temps libres, je suis mécanicien vélo. Enfin, mes temps libres, par là, je veux dire... ma profession.
T'as tellement une chouette profession que t'inverses le temps libre et le temps.
Ça, ouais, ça. D'accord. Et puis c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés parce qu'en fait tu es le padawan d'un ancien invité du Cyclocast. Tu es le padawan de
Guillaume Vic.
C'est ça, de Ruzac. Voilà.
Ruzac. Oui, pardon, j'oubliais d'utiliser les noms de code.
Non, mais voilà, Guillaume, on n'a pas fait mystère. Hein, voilà. Et oui, parce que oui, on a appris à la même source. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, au recycleur.
C'est ça.
D'accord.
Donc voilà, ouais, je ne travaille plus là-bas actuellement, mais j'y ai travaillé 2 ans et c'était une très belle expérience. Et voilà, donc c'est à la fin de mon contrat, de ce contrat-là, que j'ai commencé mon premier voyage à vélo. Alors jusqu'à maintenant, j'ai fait des voyages à vélo qui sont un peu des pèlerinages pour des festivals de musique électronique. Le premier étant le Boom Festival au Portugal, qui se passe près de la frontière espagnole une fois chaque année, une fois tous les 2 ans, pardon. Et le Ozora Festival, qui se passe tous les ans en Hongrie. Et donc là, le voyage le plus récent, c'était... Bon, je vais descendre le chat parce qu'il joue avec mes écouteurs. Ça va
c'est
pas
toujours
être
compliqué d'enregistrer chez Proc, on se fait agresser.
Et donc du coup voilà, j'ai entrepris un voyage avec un ami que j'ai rencontré au recycleur également. Décidément, ce lieu est
tisseur de liens social. Et donc voilà, il s'est joint à l'aventure. C'était 4300 km et 8 pays incluant la France. Donc l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, l'Allemagne et la Hollande pour moi. Et retour en France directement pour mon ami Johan.
Donc, retour voilà, en France en partant d'où ?
De la Hongrie.
D'accord.
Donc grosso merdo, Lyon, Budapest et Budapest, Lyon pour Johan et Budapest, Enschede à côté de une heure de train de Amsterdam pour moi-même. Voilà. Donc moi, bah, je fais du voyage à vélo parce que c'est gratuit. Déjà parce que je suis un gros radin. Non, sans déconner, c'est parce que pour moi c'est la vitesse la mieux en fait, parce que le train, la voiture, l'avion, tout ça, ça va trop vite. On n'a pas le temps de voir le paysage, on n'a pas le temps de voir les gens, on n'a pas le temps de voyager en fait.
Et puis si on voit quelque chose d'imprévu, on peut pas s'arrêter.
C'est ça. Moi, je pense à une anecdote toute simple. Là, j'avais oublié de prendre des gants de mécanique pendant le voyage. Et puis, ben, j'ai trouvé un gant à gauche le troisième jour et un gant droit une semaine et demie après être parti.
Tu les as trouvés sur le bord de la route ?
Sur le bord de la route.
D'accord.
Des gants de manutention baignés de
d'accord,
caoutchouc là.
D'accord. Donc voilà. les gants de mecs de chantier.
Voilà. Et j'en ai trouvé encore. Je crois 3 paires et demi le registre.
J'adore. Moi j'amène ma nana en balade vélo. Elle s'arrête, elle prend des photos de papillons. Puis t'en as un qui dit ouais, moi je trouve des gants.
Et je me suis même j'ai fini ma caisse à outils aussi. J'ai trouvé une clé mixte œil et ouverte de neuf. J'ai trouvé on peut trouver des
pinces. T'es sûr que ton pote devant n'est pas une sacoche perchée et tu récupérerais pas son
non,
matos?
Non, parce que c'est moi qui étais devant.
Ah d'accord. Okay. Bon, pour les auditeurs, faites gaffe, hein, partez pas sans chaussures, sans rien, vous trouverez pas forcément tout ce dont vous avez besoin sur le bord de la route.
Ou hein. Pas dans la bonne pointure.
Ouais, voilà, ouais.
Ah, ça m'arrivait justement en rentrant du Portugal, ça m'arrivait de trouver une sacoche éventrée. Un pauvre monsieur d'une cinquantaine d'années, j'avais estimé, vu ses affaires, 50-60 ans, qui s'était fait tout voler et il restait quand même pas mal de choses. Et c'était un ami cycliste, parce que du coup, j'ai récupéré une très belle veste Spiuk de vélo. Je m'en suis permis de récupérer parce que j'avais bien vu que c'était très loin de son propriétaire et du coup, il fallait bien que ça serve à quelqu'un.
Oui. Tes anecdotes me font penser, dans le dernier carnet d'aventure, il y a tout un dossier sur les galères en rando, avec notamment, alors je me souviens plus comment s'appelle cette fille qui partait faire un tour en Amérique du Sud, et en arrivant en Colombie, ça faisait pas une heure qu'elle était sortie à Medellín, qu'on lui a piqué son vélo et ses bagages.
Ah merde.
Wow.
Ça commençait bien.
Ouais, bah la Colombie, c'est vrai qu'on entend pas mal de choses, mais moi, des voyageurs à vélo, j'en entends beaucoup de bien aussi. Donc après, faut espérer.
Si t'as besoin de contact, il y a le frère de Mogor qui habite à Medellín.
D'accord, donc, ça servira peut-être parce que justement, le pas le prochain, mais le celui d'après, le voyage prévu, c'est à partir du 20 novembre probablement. Les réservations de billets sont bientôt. Et donc ça va être la traversée de la Cordillère des Andes à partir de Ushuaia ou un petit peu plus haut, Buenos Aires.
Tu remontes donc.
Voilà.
Tu pars du sud.
Ouais,
et tu
parce que je vais partir du sud à partir de novembre, donc ça va être encore l'été là-bas, la fin de l'été, et ensuite en remontant l'hiver étant plus doux quand même dans le nord de l'Amérique du Sud, même si de toute manière je vais quand même un peu me peler le jonc parce que c'est la cordillère des Andes.
Oui. Voilà, il y a quelques trucs avec on appelle ça des sommets,
des côtes, des trucs comme
ouais,
ça.
Ouais, voilà.
Enfin voilà, des choses à quelques 3500 mètres. Donc ça va être une première parce que ben le voyage à vélo pour moi jusqu'à maintenant ça a été le plus haut col avec les sacoches, tout ça, c'était 2188, je crois que c'était le col du Petit Saint-Bernard.
C'est déjà bien.
C'est honorable, oui.
J'aurais voulu le faire en
moi, c'est la Croix-Rousse. Hein, donc,
J'aurais voulu le faire en une traite, mais mon compagnon de voyage n'était pas de cet avis-là. Donc du coup, on a campé, mais on a trouvé un super spot à ce moment-là. Donc c'était de bonne guerre. Mais ouais, c'était pour moi, c'était l'une des meilleures étapes du voyage de faire le col. Donc ça me met en confiance vis-à-vis de passer des énormes cols.
Ouais, parce que la cordillère, alors tu passes peut-être pas par les points culminants, mais c'est plus de 4000 mètres.
C'est ça. Bah, après les points les plus hauts, je compte les faire en trekking en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que
t'as des passages les altiplanos, etc. où c'est manque d'oxygène et compagnie aussi.
Oui, donc là, après, de toute façon, je le ferai pas seul, je le ferai avec... ce sera des petites expéditions avec guide. Mais donc, voilà, je poserai mon vélo soit dans un hostel, soit dans une ferme, parce que je compte aussi faire du woofing. Et donc, voilà, me démerder pour délaisser mon vélo dans un endroit sûr pendant quelques jours, et ensuite faire du trekking pour... atteindre des sommets qui sont pas du tout accessibles à vélo en fait. Parce que à vélo, je pense que le maximum ça va être 3500 mètres.
C'est déjà plus que raisonnable. Hein.
Voilà. Et donc, du coup, là, au-delà de la dimension touristique que je faisais jusqu'à maintenant dans mes voyages à vélo et aussi la largement récréative dans les festivals de musique électronique, psychédélique et tribale. J'espère pouvoir partager en Amérique du Sud des compétences que j'ai, donc la mécanique vélo, même si j'ai la part modale du vélo en Amérique du Sud doit être un petit peu plus petite, surtout dans les plateaux. Mais voilà, mais
c'est compliqué.
Voilà, donc on verra bien. Mais après, j'ai pas de main gauche, du coup, ça, même mes qualités de bricoleur peuvent s'étendre à d'autres choses. Et puis, donc du woofing, j'en ai parlé tout à l'heure. Et
c'est quoi le woofing?
Alors, le woofing, c'est Worldwide Opportunities on Organic Farms. Ok. Donc c'est du travail.
C'est pas aboyer chez les gens, hein, pas du tout.
Non, c'est pas
ça, du barking. Ouais.
Et du coup, voilà, c'est du travail volontaire dans des fermes. Alors souvent à tendance biologique, autosuffisante.
De toute façon, organic farms, donc c'est des.
Voilà,
c'est des fermes bio.
Oui, mais je le précise, oui, pour nos amis non anglophones.
Oui, oui.
des établissements de gauchistes, quoi.
Voilà. mais du coup, j'ai déjà fait un peu de woofing en Irlande en 2010, et c'était très intéressant comme expérience. Ça permet de déjà de voyager de manière très peu onéreuse aussi. Parce qu'on est nourri, logé, blanchi.
Tu donnes un coup de main
contre
l'hébergement et la nourriture.
Voilà. Et puis après, ça permet. On travaille en général entre 5 à 6 jours par semaine, entre 4 et 6 heures par jour. Ça dépend des établissements. Donc ça laisse en général le samedi et le dimanche, ou simplement le dimanche de libre pour faire d'autres choses. Après, si on s'entend bien avec les personnes, on peut aussi convenir de d'une mission d'un temps donné, on va dire 3 semaines, et puis sur ces 3 semaines il va y avoir une semaine où on va être absent, et puis on va pouvoir découvrir un petit peu les environs, pas avoir le nez dans le travail tout le temps et ne rien voir en fait du pays. Donc voilà, ça permet quand même de tisser des liens intimes avec les populations et avec le pays, sans se ruiner.
Ah, c'est chouette, parce que ça rentre bien dans ta démarche en plus de voyageur, de personne qui va voyager, pas forcément pour aller voir dire
pas le touriste consommateur,
exactement, le tourisme, exactement,
bien
le voyageur, pour faire un voyage, quoi, qu'il soit,
ouais, ça. Moi, je suis voyageur,
qu'il soit géographique,
je suis pas touriste,
ou qu'il soit qu'il soit de l'esprit et des,
ouais, et c'est ça aussi qui est incroyable avec le vélo, c'est que les gens sont ils ressentent beaucoup de choses quand ils vous voient arriver à vélo avec tout le barda, surtout quand les conditions sont difficiles, quand il fait très chaud ou qu'il pleut, voilà. Et du coup, ils ont du respect, de l'admiration.
Il y a de l'empathie.
Et de l'empathie, voilà. Et du coup, ils ont envie d'aider. Et donc,
c'est comme dans le sud, hein. Le fada, on l'aime bien, quoi. C'est le gars qui débarque avec les sacoches quand il flotte, il fait à moitié.
Moi, je l'ai vu à ma petite mesure l'année dernière quand je suis monté à Paris avec mon fils. Mais vous faites ça à vélo? Vous faites Lyon-Paris à vélo avec un gamin de 5 ans? les gens me regardaient comme un extraterrestre. Bah oui.
Et bientôt, puis... bientôt, ce ne sera plus ce genre de, ce sera plus considéré comme un comportement bizarre, mais comme quelque chose de normal.
Ce sera mainstream.
Oui, ce sera mainstream.
Ouais. Obligé de le faire en voiture, du coup.
We did it before it was cool.
Au-delà de le faire avant que ce soit cool, moi, ce qui me plaît dans la démarche de le faire avec, moi, avec mes gamins, c'est de faire en sorte que eux sachent que c'est possible de le faire bien avant qu'ils aient besoin de le faire. Et...
Mais ça, j'ai eu.
Je présume aussi que le fait de d'arriver à vélo quand tu t'es engagé à filer un coup de main à des gens qui font un travail un peu physique, ça doit aussi être un gage de. Comment dire, de ouais, et puis de volontarisme en fait. Je présume que quand les gars doivent arriver, ouais, je viens de me faire 200 bornes à vélo, les mecs ils disent ah tiens, j'avais prévu de lui faire bêcher un champ de patates, bah au final j'ai pas tellement peur qu'il y arrive pas, quoi. Tu vois, c'est un peu
ouais,
ça va, je sais pas faire, je vais quand même apprendre, y a pas de souci, tu vois, c'est ouais, peut-être un peu de ça, non?
Ouais, je pense. Alors j'avais pas forcément pensé à ça, j'ai pas encore expérimenté ça parce que le voyage à vélo, je l'ai pas encore allié au woofing. Parce que quand j'ai fait du woofing en Irlande, j'étais en sac à dos et stop et
Je pense que de toute façon, même, enfin, quand t'es en sac à dos, que tu te déplaces en stop en marchant, t'es pas, t'arrives à l'aéroport, tu prends ta bagnole de loc.
C'est ça.
Déjà, t'as une démarche intellectuelle,
une démarche, voilà.
Et qui montre que t'es prêt à faire des efforts pour te déplacer. Donc, faire des efforts. Pour faire du woofing, ça semble plutôt aller dans le même esprit et donc ça me semble plus cohérent dans la démarche, quoi. Mmh.
Donc le prochain voyage, l'Amérique
du
Sud.
Non, du coup je disais pas le prochain, mais celui d'après. Le prochain c'est le retour au Boom, donc Boom 2016, deuxième édition pour moi. Et c'est un peu la revanche parce qu'en fait il y a deux ans j'ai travaillé encore au recycleur et j'avais réussi à avoir un mois de congé et qui commençait juste 4 jours avant le début du festival. Donc je ne pouvais pas faire l'aller et le retour. Donc par chance j'ai trouvé un ami qui y allait avec son camion, il y avait déjà un porte-vélo sur le camion, donc c'était tout bénef, il cherchait quelqu'un pour partager le camion. On y allait ensemble et puis on a fait le festival et je suis reparti après 9 jours de fêtes intenses en direction de la France. Et
t'es reparti à vélo.
Je suis reparti à vélo, j'ai fait les 3 premiers jours avec un festivalier tatoueur itinérant qui m'a fait cette jolie marque sur le mollet que vous avez pu voir tout à l'heure.
En forme de pédalier.
En forme de chaîne, de plateau de pédalier, c'est effectivement. Prise sur la l'empreinte exacte du grand plateau de mon vélo de voyage. Mais donc du coup, j'avais pas énormément de temps pour rentrer à Lyon. J'avais une vingtaine de jours pour faire à peu près 2000-2300 km. Et c'était la première fois que je faisais vraiment longue distance. Et
donc plus de 100 bornes par jour.
C'est ça. Et j'étais un petit peu...
Ouais, le mec hyper blasé qui fait « Ouais, nous on a rencontré un mec, il a fait plus de 5000 bornes en 13 jours. » C'était Arnaud Manzanini, mais c'est
il avait pas de sacoche. Autre chose. C'est de la triche, il n'y avait pas de sacoche.
Ouais. Voilà, et puis bon, c'est un X-Men. Mais,
il avait un vélo à 6 kilos en plus.
C'est ça, voilà. Non, c'était totalement de mauvaise foi, je te rassure.
Et voilà, et du coup ça s'est pas très bien passé, mon corps a pas tout à fait suivi en fait ce que je lui ai imposé, déjà parce que
à cause de la fête avant ou
voilà,
à cause
j'étais déshydraté en fait à cause de tout l'éthanol que j'avais mis dans mon corps, et puis
contrairement aux idées reçues, c'est pas forcément un bon carburant.
Non, pas pour le cycliste.
Pour l'humain, non.
Pour la Jeep, ouais, mais pas pour le cycliste.
Et du coup, déjà, je suis un petit peu prompt à avoir des tendinites au genou et au tendon d'Achille. Tu veux dire quelque chose?
Oui, je me demandais, c'était pas aussi à cette époque-là que tu avais fait ton vaccin qui t'avait cassé en deux?
Attends.
C'était juste avant de partir, il me semble. Quand t'avais trouvé recycleur, t'étais tout pas l'eau.
Tu t'avais non, fait c'était avant de partir en Afrique.
C'était avant de partir en Afrique, ouais.
C'est la première fois qu'un vaccin m'avait cassé en deux, ouais. C'était une horreur.
C'était le choléra, je crois, un truc comme ça.
Fièvre jaune.
Fièvre jaune, voilà. D'accord, non, je me demandais parce que ça t'avait. Enfin,
oui,
on se souvient
que. Ça aurait pu jouer, effectivement.
Et effectivement, niveau éthanol, tu étais très très bas. C'était à chaque fois tu bois un truc, ouais, je bois un thé. Et t'es pas folichon. D'accord, bon, alors je confonds, excuse-moi.
Mais du coup voilà, donc il y avait ça, le fait que j'étais un peu déshydraté à cause de l'alcool, que j'avais pas assez bu d'eau pour rattraper tout ça, et qu'en plus j'avais fait la bêtise de partir en cale automatique. Alors voilà, si y a des gens qui considèrent le voyage à vélo longue distance, moi en tout cas je le déconseille, les chaussures avec des cales pour chaussures automatiques, parce que ben si on est sur une position qui est pas vraiment bien réglé en étude posturale, ben on risque de créer des pathologies parce qu'on est vraiment à la même position tous les jours sur des centaines de kilomètres et donc ben ça peut créer des lésions comme moi j'ai eu, c'est-à-dire j'ai eu des grosses tendinites bien carabinées d'abord au tendon droit et ensuite au tendon gauche d'Achille. C'était à peu près au 700e kilomètre sur la fin de l'Espagne et sur une pente douce, d'un coup une bonne douleur vive dans le tendon droit, et puis j'ai continué le lendemain le gauche, et après j'ai continué encore pendant 300 bornes, et puis arrivé au-dessus de Bayonne j'ai pris le train et je suis rentré
à l'hôpital
à Lyon, mais ça n'a pas été tout repos non plus, ça a eu beaucoup de problèmes sur le trajet, mais bref et voilà, mes tendons étaient vraiment très desséchés, on pouvait les entendre craquer quand je bougeais les tendons, on pouvait les sentir vibrer quand on posait la main dessus. Voilà, c'était vraiment et je me suis dit, pour moi le voyage à vélo c'est fini, je vais plus jamais y arriver.
Vous imaginez là en fait qu'il y a trois podcasteurs qui sont en train de faire des grimaces de fin du monde.
Moi j'ai mangé la mousse du micro.
Mais du coup là, je me disais je pourrais plus jamais faire de voyage à vélo, je me suis j'ai niqué mon capital tendon d'Achille. Et j'étais quand même assez anxieux de repartir en Hongrie l'année suivante. Et donc je me suis pris des chaussures de rando et puis des pédales plates. Je me suis calé sur bien le milieu du pied au début en changeant un peu ma position de selle, et puis j'y suis allé progressivement. Et au final ça allait très bien, malgré le fait que j'ai eu un début de douleur juste avant de partir, et j'avais même pas commencé à faire du vélo. J'ai eu un début de retour de douleur des tendons à 2 semaines du départ, donc c'était un peu le flip. Mais ça s'est très bien passé, et même au niveau des genoux. C'est aussi parce que j'avais réduit l'alcool, je pense.
Petite remarque, je vois, parce que donc il faut savoir que dans cette maison, les vélos dans l'immédiat dorment dans le salon. Et donc, bien évidemment, je vous ai invité à monter vos vélos. Sauf celui de Grincheux. Celui de Grincheux est trop gros pour l'ascenseur.
Il passe dans mon ascenseur, il doit bien rentrer dans le tien.
Ah oui, mais ce serait un peu trop compliqué. Et du coup, en fait, je vois ta machine de guerre, Félix. Et je remarque que tu es un randonneur qui n'utilise pas de Brooks. Quelle est ta position là-dessus?
Ma position...
Trop cher, mon fils.
J'ai pas encore essayé sur les longues distances les Brooks. J'ai essayé sur celui-là, j'avais troqué une Brooks contre un pédalier avec l'ancien président du recycleur monsieur Excoffier, il m'avait qui est un grand restaurateur de Brooks, donc c'était une B15 d'il y a une quinzaine d'années. Magnifiquement restaurée, et en fait là, vous pouvez voir sur mon rail de selle que je suis au maximum du recul, parce que le cadre que j'ai pris est un petit peu petit, en fait, pour moi. Et donc là, le rail est assez conséquent sur cette selle physique. Et sur la Brooks, j'en ai essayé deux, donc celle que j'avais troquée, et puis une autre. Et en fait, j'étais assis sur les rivets à l'arrière, parce qu'elle était un petit peu trop court. Donc peut-être avec un cadre plus grand...
Ou une tige de selle avec un peu plus de déport.
Voilà, mais alors le truc c'est que c'est un cadre, alors ça se voit pas parce qu'il est sablé et repeint avec une magnifique peinture époxy mat
de toute beauté.
Mais c'est un Rock Rider 500 des années 95 environ.
Vélo des champions.
Et oui, à l'époque où Decathlon faisait des super vélos.
Ouais, j'en ai un qui dort chez mes parents, celui-là je me le réserve.
Un Rock Rider 500.
Ouais.
Oh là là, donne-le moi.
Non.
C'est quoi, c'est un L ou un M?
C'est un... Ça doit être un L, je pense.
Oh là là, je le veux. Pour remplacer mon cadre. Et donc, du coup, ce diamètre-là, là, c'est du 29,6 et c'est pas très courant comme diamètre. Il y a à peu près que Decathlon qui l'utilisait et qui l'utilise plus trop maintenant. Mais du coup, voilà, j'ai pété ma tige de selle il y a pas très longtemps et je l'ai remplacé par une Rock Rider parce qu'il y a qu'eux qui les font quasiment. Il y a Thompson aussi, mais ils les font sans déport. Donc, ce sera encore pire.
Et la tige de celle seule coûte le prix du cadre du à peu près.
Voilà. Ouais, Thompson, c'est pas donné, ouais. Et du coup, donc, ouais, les Selbrooks, par contre, mon acolyte de voyage pour la Hongrie et retour en France avait une Brooks. Je me souviens plus le modèle, mais il n'a fait que de me vanter les mérites de cette selle. Et bien qu'étant végétarien, moi-même l'étant aussi, c'est pour ça que si j'ai un peu du mal, la Candium me séduit un peu plus. Mais du coup, par contre, il m'a aussi largement squatté ma graisse neutre pour.
Je fais juste une petite précision. Tu parles de la Cambium. En fait, il faut savoir que Brooks, donc c'est des selles en cuir qui sont fabriquées avec du cuir de vache. Donc effectivement, quand on est veggie, bah c'est un petit peu. Et la Cambium, c'est une selle qui est faite en composite et latex.
C'est ça.
Voilà. C'est juste pour la précision pour ceux.
Oui,
qui
bien sûr, bien
pas.
Sûr, tout à fait. Mais voilà, du coup, il était quand même très content de cette selle. Et effectivement, il a roulé sans cuissard jusqu'à bon, l'aller-retour, quoi. Juste avec un petit short en synthétique. Et alors que moi, avec celle-ci, systématiquement, je roulais avec le cuissard. Et il y a pas mal de fois quand même où il fallait que je me repose, que je me lève de la selle. Voilà, donc elle est pas mal, c'est de loin la meilleure selle que j'ai eue pour faire du voyage. La selle d'il y a 2 ans du Boom, c'était Guillaume Vic qui me l'avait prêté. Une selle Italia très très dure, Evide au centre antiprostatique. Mais voilà, elle était très très dure et pas adaptée à mon coccyx, et du coup j'ai eu très 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 mal. Ouais, c'est un peu dur de choisir vraiment une selle adaptée. C'est vrai que les Brooks, vu qu'elles se font comme des Rangers à la morphologie du porteur, c'est peut être intéressant.
Ouais, alors moi les Brooks, j'ai eu une B17 qui m'allait pas du tout, et Mog m'a vendu la sienne
qu'elle avait racheté d'occasion.
Exactement.
À Christine.
Et en fait, je crois que j'ai un périnée de femme parce qu'elle me va très très bien.
Et ben voilà, il y a eu, elle a eu 2 femmes propriétaires avant toi à cette selle. Ouais. Elle ne leur allait pas.
Non, voilà, comme quoi elle était faite pour mon cul.
Ouais. Voilà, moi j'ai cassé ma Brooks Team Pro l'année dernière en allant à Paris. J'ai racheté une selle en urgence qui m'a fait souffrir de martyrien. et depuis, j'ai remis une Team Pro que j'ai payée plein pot parce qu'on a acheté en urgence chez Rando Boutique plutôt que de l'acheter sur Internet. Enfin bon, bah, voilà, je savais que ce modèle-là me convenait. Et même la selle toute neuve, toute dure, était plus confortable que la selle que j'avais achetée entre-temps. Donc voilà, je sais que le choix de la selle est quand même très très personnel.
Oui, c'est vrai.
Il y a d'une marque à l'autre, pour une même personne, d'un modèle à l'autre, au sein d'une même marque, il y a des
différences énormes.
Des différences, c'est un choix crucial avant de partir en voyage.
C'est ça. Et là, donc ouais, effectivement, je ne sais pas encore, je suis pas encore sûr de quelle selle je vais prendre pour l'Amérique du Sud. Je vais faire un test pour le Portugal. Je vais emmener 2 selles. Une autre selle Italia évidée au centre, antiprostatique, et mais différente de celle que j'avais utilisée l'autre fois. Et je vais alterner, voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore utilisé sur des longues distances. Enfin, longue distance, on va dire 100 km dans la journée. C'est une selle que j'utilise en rando VTT sur du maximum 50-70 et ça va bien.
50-70 en VTT, même si c'est de la rando VTC, c'est déjà quand même déjà correct.
Ouais,
comme,
ça fait une belle,
c'est correct.
C'est une belle sortie déjà.
Ça, c'est étant le maximum que j'ai fait. D'habitude, c'est plus 30-40.
Alors ça, c'est intéressant. Du coup, quand tu as dans tes voyages et dans tes futurs rando, qu'est-ce que tu emmènes comme matos, comme pièce de rechange, comme prévision de panne, comme outil, ce genre de choses.
J'emmène déjà pour être indépendant énergétiquement. J'ai un moyeu dynamo qui est relié lui à un régulateur. Le moyeu dynamo étant l'alternateur, il est relié à un régulateur qui change le courant continu en courant alternatif.
Non, c'est l'inverse.
Tout l'inverse.
Oui, pardon. Et donc du coup, c'est un petit.
Je t'ai dit que t'allais en chier. Hein. Il y a 2 informaticiens qui s'y connaissent en électronique dans la pièce que tous les deux on ne peut pas tester.
ok, je vais faire attention. Et ça y est, elle est de retour. La sonnette retentit.
Ça veut dire qu'elle a oublié les clés chez sa pote.
Et merde. Et donc du coup voilà, c'est ce petit boîtier, dessus ben il y a un tampon batterie de 5 piles LR6 et les phares sont reliés aussi à ce boîtier et il y a une prise USB. Et donc du coup, je recharge mes appareils avec ça. Et là, tout récemment, j'ai acheté aussi un panneau solaire qui va me permettre d'être autonome en énergie les jours où je suis statique. Parce que le moyen dynamo permet de recharger les appareils quand je roule.
Bon, je vais me faire 20 km juste pour pouvoir recharger le téléphone.
C'est ça. Il y a des fois où j'ai fait le test, en fait, j'avais mis le vélo à l'envers et puis je faisais tourner la roue avant dans le vent comme ça pour arriver à recharger quelques pourcents de batterie. Parce que j'arrivais à avoir dans les bons jours, avec une vitesse moyenne de 20 km/h, d'avoir et même d'ailleurs entre 13 et 20, en fait j'avais à peu près le même rendement, des fois même plus de rendement vers 15 km/h que vers 20. C'est peut-être un problème de surtension, mais du coup j'arrivais à avoir du 2% de charge de téléphone, donc smartphone, qui sont quand même très gourmands en ampères et en, enfin voilà, je vous laisse le jargon aux informaticiens, je me mouille pas, et voilà, donc elles sont
2%
très...
sur quel créneau?
Sur 1 km par kilomètre.
Ah ouais.
Et donc du coup je mettais 3 minutes pour faire 1 km, donc 2% toutes les 3 minutes. Voilà.
Ouais, donc
ça fait un bon rendement.
C'est pas mal.
Sur une heure, ça fait 40%.
Et ça, c'est un smartphone. Après, il y a les petits appareils. J'ai aussi une enceinte nomade pour la musique.
Ouais.
Parce que je suis un grand amoureux de musique et je peux pas me passer de ça. Et la musique au casque, c'est peu recommandé pour des personnes qui souffrent d'acouphènes.
Ouais, et puis même sur du. Enfin, de toute façon, en France, c'est interdit. Donc.
Oui, sur le vélo. Non, mais après, c'est aussi pour dans l'attente, sur les campements. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur le vélo, c'est aussi moins déconcentrant d'avoir une enceinte plutôt qu'un casque.
Ouais, ouais.
Et donc voilà, là, je l'ai pas encore testé. Je l'ai reçu la semaine dernière, le panneau solaire. Mais je suis très content de cet achat parce que ça va vraiment me permettre aussi pendant le trekking. Où j'aurais pas
être autonome en plus. D'accord.
Après, en termes d'équipement de.
En fait, ma question, en fait, d'orientation, c'était est-ce que tu prévois des grosses pannes ou est-ce que tu emmènes vraiment le minimum Je sais qu'il y a des gens qui partent avec des rayons, avec une chaîne en plus, vraiment
alors,
du matos.
Alors, vu que même là pour la Hongrie, j'étais parti, je savais que j'allais faire plus de 4000 km. Sachant qu'une chaîne en général elle fait entre 1500 et 3000 km, des fois un peu plus, mais bon, c'est vraiment des bonnes chaînes. J'ai pris des chaînes de rechange.
D'accord.
Après, j'en ai pris une, et puis après, j'en ai acheté sur le trajet. Des chaînes de vitesse génériques, ça se trouve assez facilement dans n'importe quel pays, en tout cas d'Europe centrale.
D'où l'intérêt de ne pas avoir des vélos trop high-tech avec des.
C'est ça,
c'est ça.
Avec 11 vitesses et des chaînes que tu ne trouves pas partout.
Et encore, 9 vitesses, c'est un peu la limite. 8 vitesses pour le voyage tour du monde, c'est quand même ce que je recommande. 3x8, c'est ce qu'il y a de plus.
Ouais, c'est ce qu'il y a de plus commun sur les vélos de.
Puis les chaînes sont plus larges, donc plus robustes et s'usent moins vite.
C'est marrant parce que c'était exactement ce dont on parlait il y a 2 ans quand tu as pris la fourche du Surly Ogre pour le Rock Rider.
C'est ça.
Tu me disais, je te disais, mais tu mets pas de disque alors que tu peux, et tu me disais non, pas de disque.
Les breaks all the way.
Eh oui, parce que sinon une durite de frein, un mec un peu malveillant, il peut te la couper.
C'est ça. Et puis l'entretien simplement.
Oui, des patins t'en trouves de partout quoi.
Oui, les plaquettes et puis la purge du frein même si c'est pas un mec malveillant. Une durite de frein hydraulique fragile.
Une durite, c'est quand même assez costaud, mais une mauvaise chute qui va simplement t'arracher la durite.
Tout le liquide se répand et voilà, c'est terminé.
Voilà.
Donc, moi, c'est. Et puis en plus, pour le transport, si jamais il doit être démonté, il faut emmener les cales des disques, des plaquettes pour éviter que les pistons se rapprochent trop.
Ouais.
Et qu'après, on galère avec un tournevis au risque de niquer les plaquettes pour écarter tout ça. Donc ouais, c'est V-Break, puis c'est tout à fait efficace pour ce qu'il y a besoin de freiner dans un voyage à vélo, même en grosse pente à charger avec du bon V-Break, ça passe. Et donc du coup, voilà, j'emmenais de la chaîne de rechange. Pour l'Amérique du Sud, il y aura aussi du pneu de rechange, parce que là, ça va vraiment être un an, pas en autonomie pure, mais quand même.
Tu es monté en 26, c'est parce que c'est le format le plus courant ou juste parce que c'est ce que tu préfères?
Parce que c'est le plus courant. Après, c'est aussi parce que j'ai un format que j'aime beaucoup. Mon ancien acolyte est un fervent défenseur du 27,5, appelé à défaut 27,5. Mais c'est
650B.
Ouais, 650B ou le 584 mm de diamètre. Et donc ça, c'est un format qui est effectivement, c'est un très bon compromis entre le 28 pouces qui est un petit peu trop grand, donc un peu trop dur à faire tourner sur les relances, et puis un peu trop difficile à trouver selon les pays.
Mais par contre, c'est un standard qui est dur à trouver.
Le, oui, 584, c'est très dur, c'est ça. Donc il vaut mieux emmener du pneu et de la chambre à air de change. De la chambre à air, on peut faire passer du 26 sur du 584. Ça, y a pas de souci. Mais voilà, donc.
Je connais des bourrins qui ont déjà fait passer du 28 aussi, hein.
Oui, oui, bien sûr, oui. Ça fait un peu des plis, mais bon. Tu le sens un petit peu, ça fait des petites bosses sur la route.
Ou sinon, tu prends des chambres linéaires.
Des boudins, ouais, comme ils utilisent chez Déco pour réparer les vélos.
Chez Vélo, ouais.
Mais du coup, voilà, moi, c'est un format que j'aime bien et aussi parce que c'est international. On en trouve partout. Il y a pas un seul pays, il me semble, qui ne connaît pas ce standard. Et puis, du coup, je mets des pneus bien larges. Comme ça, c'est bien confort. Et surtout, je vais en avoir besoin là où je vais.
Ce sera pas forcément des routes goudronnées ou du...
Voilà, ce sera de la route caillouteuse ou sablonneuse ou même en sel. Il y a un désert salé...
En Bolivie.
En Bolivie. et voilà. Mais par contre, celui-ci, justement, j'ai suivi le blog d'un Suédois qui a fait une des nombreuses personnes qui a fait la traversée des Andes, et il disait que lui, il avait trouvé que c'était plus confortable qu'une route fraîchement goudronnée, de rouler sur ce sel. C'était vraiment sans un bruit, sans bruit et sans heurts.
C'est lié au fait que c'est parfaitement lisse, choses comme ça.
C'est ça, et puis que c'est des grains très très fins en fait, et que c'est assez bien tassé quand même, donc on s'enfonce pas.
Faudra que tu nous dises ça quand tu reviendras.
Et ça bouffe le cadre en combien de temps?
Oui, c'est vrai que je pas s'éterniser dans les...
Et pareil, t'as pas intérêt à te viander là-dessus.
Bah c'est bon, tu te désinfectes pas, hein. Tu te roules un coup par terre et tu repars, hein, nickel. Ça a piqué un peu les 50 premiers kilomètres, mais...
Et après, en termes d'outils, ce que j'emmène, c'est l'outillage classique, donc clé Allen et puis... quelques clés plates et
pour les pédales ou autres si jamais t'as besoin.
Voilà, donc clés plates, les petites, là où il y a besoin de que ce soit vraiment à la bonne taille, et puis sinon après quand c'est un peu plus gros, je prends de la clé à molette. Et quand même une clé de les plus usitées, genre 14 15 et 16 17.
D'accord.
Voilà, et donc du dérive chain, je pensais emmener le démonte boîtier de pédalier, enfin peut-être pas en fait parce que là je viens de le changer. C'est un boîtier de pédalier à roulement externe, donc c'est ça paraît, c'est un standard qui est quand même c'est assez haut de gamme. C'est assez répandu, mais c'est quand même assez haut de gamme et c'est réservé à une pratique sportive.
D'accord.
Donc c'est vrai que le plus simple pour voyager longtemps et à l'étranger, là on sait pas trop ce qu'on va pouvoir trouver, c'est le standard ISO axe carré. Moi je tombais amoureux du roulement externe.
C'est plutôt robuste, hein.
J'ai même boîtier de pédalier. Je l'ai changé parce que j'avais un bruit que j'identifiais pas, et j'avais un boîtier neuf et je l'ai changé, il avait 9 ou 10 000 km et en fait il pouvait continuer à rouler.
Ah bien sûr.
Il a sûrement fait le bonheur de quelqu'un d'autre au recycleur.
Et tu parles de roulement externe ou de carré ?
Roulement externe.
Ouais. Moi c'est pareil là, alors GXP ou GPX, parce que avec les traces GPX de c'est GXP. Parce qu'avec les traces GPX de Haussmann, je m'y perds. Donc c'est du GXP de SRAM, et le boîtier, donc là je l'ai changé il y a pas très longtemps, il n'avait pas de jeu, mais il avait des petits grincements et craquements qui me déplaisaient, mais il avait quasiment 20 000 bornes.
Oui.
Et il avait pas de jeu. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Par contre, c'est ça, ouais, je vais emmener un démonte cassette et un fouet à chaîne. Parce que là, en fait, pendant le voyage en Hongrie, j'ai mis 3 chaînes quand même. Parce qu'en fait, quand je suis parti, j'avais cassette et chaîne neuve. Par contre, j'avais pas plateau neuf. Et du coup, mes chaînes.
Ça bouffait les chaînes plus
voilà,
vite.
Voilà, mes chaînes se bouffaient plus vite. Et donc elles me faisaient 1000 bornes, en gros.
Ah, d'accord.
Donc j'en ai mis 3, puis la dernière, j'ai fait je finis le trajet avec ça, et puis je flingue la cassette, et je mets tout neuf en arrivant. Et donc, même si on change les chaînes au bon moment, juste avant qu'elles soient trop usées, et qu'elles commencent à raboter la cassette et les plateaux, on va quand même user la cassette de toute manière. Donc,
la cassette va s'user plus vite.
Voilà, et après elle va on met une chaîne neuve, elle va venir user la chaîne plus rapidement. Et donc on peut faire 3-4 chaînes maximum sur une cassette. Et ensuite, il faut la changer également.
Ouais, c'est vrai que tu es sur des longueurs qui, en vélotaf, relèvent plutôt de l'année que c'est toi, ça. Tu fais assez rapidement. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes, mêmes contraintes sur le matériel.
Ouais, mais là je le vois bien.
Et puis, tu vas pas être en ville sur du
ouais, roulant, voilà, ouais,
non, tu vas avoir du sable, de la poussière, du sel, comme on vient de le dire, enfin des trucs qui vont être agressifs sur toute la transmission. Même si tu entretiens le vélo, il va morfler plus que quand tu fais de la ville, quoi.
Mmh. Après, bah ouais, donc j'avais dit une paire de pneus de rechange. et puis bah, de la chambre à air, rustine, des monte-pneus, etc.
Ouais,
de l'usuel, quoi.
Tout le monde en met. En poids, tu sais ce que ça représente à peu près,
L'équipement total?
Ouais, en tout.
Alors mon vélo tout nu, sans l'antivol, et les sacoches même vides, il est à 15,5 kg, il me semble.
Ouais.
J'avais pesé récemment au recycleur là. Et puis après l'antivol fait 600 grammes, donc ça rajoute un petit peu. Ça oui, sans le bidon aussi. Et puis après avec sacoche.
Ton antivol de 2 kg, toi.
Moi, je pensais que tu t'as un antivol, mais bon, c'est un antivol de moto.
Mais voilà, mais là c'est un Bordeaux Light que j'avais pris spécialement pour voyage, qui est pas très solide, mais qui voilà.
Qui sécurise.
Voilà, j'utilise pour quand je vais faire, pardon, les courses dans un magasin, ou que je suis pas trop en confiance la nuit et que je campe.
Voilà. De toute façon, voilà, moi je l'utilise parce que je suis avec un cargo qui fait déjà 38 kilos.
Ouais, ouais.
En rando, j'emmène pas cet antivol là.
Ouais. Mais voilà, du coup, y a ça. Et puis après, avec les sacoches remplies avec tout l'outillage, et on peut aussi compter, ça dépend des jours, mais quand on se réapprovisionne en bouffe et en flotte.
Ouais.
Parce que là, le dernier voyage, je trimballais quand même 7 litres d'eau.
D'accord.
J'avais pas fait ça avant, j'étais plus à 3-4. Et c'est pas mal en fait, ça permet de. Quand même, dès que je rencontrais un point d'eau dans la journée, je
rechargeais pour être toujours
à bloc. Checkpoint. Et donc, du coup, tout ça. Alors, j'avais pas fait vraiment peser, mais. À la pesée au bras, il m'a semblé que je devais être à 35-37.
D'accord.
Voilà. Pour info, mon acolyte, c'était plus 45-47. Avec un cadre d'âme, s'il vous plaît. La prouesse. Donc du coup, pour les monter, c'était un petit peu,
Compliqué.
Ouais. Le cadre zigzaguait.
Ça devait chewing-gommer, ouais.
Ouais, et c'était pas très facile pour la montée des Alpes, surtout. Il y a dû pousser.
Ouais, je comprends que le petit Saint-Bernard avec un cadre... Un cadre ouvert. il en est bavé, il a voulu faire une pause.
Ah, il a pas fait pause, mais il a poussé, quoi.
Ouais.
Il a poussé. Et ouais, du coup, ben le poids. Alors après, c'est vrai que je l'ai un peu plus ressenti sur le retour. J'avais rajouté 3 litres d'eau. Donc j'étais plus à 4, j'étais à 7. Et puis j'avais aussi deux tentes. Parce qu'en fait, Johan, mon collègue de voyage, m'a corrompu, alors je le ferai pas en Amérique du Sud, mais m'a corrompu à la Quechua 2 secondes en voyage à vélo. Alors du coup, moi j'avais j'avais ma Quechua d'expédition, la Ultralight T2, qui est très très bien, elle fait 2,3 kg, elle fait la largeur et la longueur de mon porte-bagages arrière. Donc elle rentre pile dessus. Mais par contre, voilà, il faut la monter à chaque fois, on peut pas la monter sur tous les terrains, il faut planter les sardines. Il y en a pas énormément, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il y en a 7 à planter dans le sol, avec un seul arceau. Mais voilà, et du coup, arrivé au Zora Festival, il y avait tellement de gens qui jetaient, à la fin du festival, qui jetaient leur tente.
Et ouais, c'est tellement pas cher que c'est jetable en fait.
Voilà, et puis il y a tellement de gens qui s'en foutent complètement, qui sont dans le consumérisme crasse, et du coup, et qui ont en plus vivent avec la thune de papa-maman, qu'ils ont rien au festival, ils étaient tout serrés comme des sardines dans la voiture, et puis au retour, ben il y a tout ce qui est plus indispensable, c'est-à-dire duvet, tente,
ils laissent tout sur
de
place.
Camping. Des trucs neufs, un Thermarest à 150 € dans son emballage, enfin dans son, il manquait juste le sac, mais voilà, et c'était quasiment comme s'il y avait encore le blister jeté.
La prochaine fois, en fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on
va te filer une remorque.
On va te filer de la thune, voilà, et tu vas nous envoyer par la poste.
On va te filer une remorque,
c'est ça, tu vas
te
remorquer. Ouais. Ou alors, trouver quelqu'un.
Je me fous du festival, on y va juste pour le dernier jour.
mais sans déconner, ouais, le bon plan, c'est d'y aller avec un camion un peu vide, avec un minimum de place. Il y a tout, il y a des camping gaz, il y a des... Et du coup, donc, Johan, alors, c'était encore... J'ai trouvé que c'était pire au boom qu'Ozora. Mais Ozora, il a quand même trouvé tout ce qu'il lui fallait, le Yohan. C'est-à-dire une tente neuve, parce que sa Quechua, deux secondes, elle avait bien ramassé, il vit voyager avec un rat. Et du coup, il avait un peu grignoté la tente. Le duvet, pareil, grignoté, donc il était plus tout efficace. Il a même trouvé un hamac en toile de parachute, comme j'avais. Parce que ça, j'emmène aussi, c'est vachement cool en voyage.
J'en ai un aussi. En fait, ce qui pèse le plus lourd dans le hamac, c'est les crochets.
C'est ça. mais voilà, du coup, il a trouvé duvet, hamac et tente. Et donc, j'ai récupéré la sienne. Parce qu'il y a un ami à Lyon qui aurait bien aimé récupérer, même s'il était un petit peu bousillé, il n'avait pas de tente et il aurait bien aimé la récupérer. Donc je l'ai ramené jusqu'en France et je me suis dit, voilà, tant qu'à la charrier, je vais l'utiliser. Et même si c'est un peu gros sur le porte-bagages, ça nécessite en fait une prolongation à l'extrémité arrière du porte-bagages arrière. Et du coup, voilà, lui, il avait fait une prolongation et il pouvait fixer sa tente sans problème avec de la chambre à air et puis la tige en métal tordue pour en faire un crochet.
Et niveau prise au vent, ça donne quoi ?
Ça allait, après, lui, il était plus à ça près.
Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a 45 kilos sur le machin.
Mais moi, en fait, ça, au final, les deux secondes, deux personnes, parce qu'il y a une personne, sont encore plus petites, mais ça vaut pas trop le coup. Parce qu'on est quand même vachement serré dedans. Mais les deux personnes, ça faisait à peu près la largeur de mes deux sacoches.
Okay.
Plus le centre du vélo. Et puis en hauteur, j'étais à peu près là. Après, ce qui était un peu chiant, c'est que vu que j'avais pas de prolongation, moi, ça venait me taper dans l'arrière des cuisses.
Ah oui. Ouais.
Mais voilà, c'était quand même vachement agréable, des fois, après une journée de 100, 120, 130 km.
De jeter la tente jeter dedans.
Voilà, et surtout de trouver un endroit qui avait été bien au niveau. Visuel, voilà, au bord d'une rivière, etc. Mais que c'est du sable ou une plage de galets et que du coup on peut pas planter la tente, il suffit de la planter, de mettre quatre cailloux dedans pour la stabiliser.
Oh, même une sacoche, ça suffit des fois.
Oui, mais là j'avais vraiment des grosses caillasses et du coup il y avait un vent de ouf. Et puis j'avais mis ça dedans et ça l'avait complètement scotché au sol. Et puis juste à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait j'étais sur un couloir aérien. et j'avais fait genre 120 bornes, donc j'ai fait c'est bon, je reste là. Et j'avais mis mes protections auditives parce que c'était quand même vachement balèze. Mais ouais, j'étais vraiment juste au-dessus et il devait être, je sais pas, à vue de pied à 500 mètres au-dessus de moi, la piste. Et il y en avait vraiment beaucoup des avions. Et
je comprends pas, le terrain est super cool là, pourquoi il y a
personne qui se met là?
et ouais, il y en avait tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, même moins que ça en fait, toutes les 10 minutes il y avait des avions.
Enfer.
Et bon, ça s'est arrêté sur les coups de 22h et ça a recommencé, ils ont été sympas, et puis ça a recommencé sur les coups de 7h, l'heure à laquelle je me levais pour commencer la journée, donc ça allait. Mais voilà, je ne le referai plus.
T'as un souvenir en particulier, quelque chose qui t'a marqué sur ces voyages? T'as fait à la fois avec quelqu'un, à la fois tout seul, si j'ai bien compris?
Ouais, bah du coup...
Je sais pas si y en a un que t'as préféré, du coup...
Bah en fait, y a des choses à prendre sur les deux expériences, de le faire tout seul ou à deux. Bah tout seul, l'avantage c'est qu'on a le rythme qu'on veut, surtout si parce qu'on avait quand même un rythme assez différent. Au niveau du lever, en fait, avec Johan, il aimait bien se lever tard, et moi, en voyage, je suis une pile, je me réveille à 7h du matin, et faut qu'on y aille, quoi. Donc ça, c'était un peu difficile, et du coup, je pouvais gérer mon voyage comme ça, je me levais, je prenais mon petit-déj, et à 8h, 8h30, j'étais sur la route. Et donc après, j'avais fait 130 bornes, entre 100 et 130 bornes, avant 17h. Et du coup, vu que la nuit se couchait, arrivait assez tard, je pouvais encore faire pas mal de choses, me poser, me balader là où j'étais, me baigner et profiter du soleil. Donc le
Ou
voyage.
Galérer 2 heures pour trouver un coin à bivouac.
Voilà. Mais du coup, c'est vrai que le voyage tout seul, ça a cet avantage-là, c'est que tu gères vraiment ton emploi du temps. Si ça foire, c'est que ta faute et que tu vraiment, si t'as envie de pousser un peu plus, et ben c'est que toi, c'est ton avis, voilà, ben voilà, je peux encore y arriver. Et si t'as envie d'y aller, mais que l'autre il est là, bon, ben, je suis pas trop chaud, et que c'est tant pis, mais voilà.
Ou l'inverse, l'autre veut y aller, et toi, le frein.
Voilà, voilà, donc c'est vraiment être le seul responsable de son voyage, ça c'est ce qui m'a toujours séduit dans le voyage tout seul. Et en fait, c'est, la plupart du temps, je voyage seul. Ça m'arrive assez rarement d'être à plusieurs. Mais il y avait des moments où j'étais quand même très content qu'on soit à deux. Surtout si c'est sur des longues périodes, les moments des repas, les moments des, ouais. du coucher, c'est quand même super d'avoir quelqu'un qui parlait, d'apprendre à mieux se connaître, de partager des choses, et puis ouais, de vaincre la solitude, quoi, parce que c'est vrai que des fois c'est dur.
Oui, et puis simplement quand t'es à l'étranger, avoir quelqu'un avec qui tu parles sans te poser la question dans la langue, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on traduit ceci, cela. Parler ta langue natale, c'est détendant.
Ouais. Après, justement, là j'en reviens à voyager tout seul et ce que je préférais faire aussi par le passé, c'est parce que quand je voyage en général, c'est aussi donc la découverte du pays et majoritairement, une grande partie découvrir la langue. Et oui. Moi, je suis un grand fan d'apprentissage de langue. J'en suis à 4 pour l'instant. J'espère en.
T'as appris le hongrois ?
Non, alors l'hongrois, je veux dire merci beaucoup, deux bières s'il vous plaît.
Les mots importants.
Voilà, et puis voilà, c'est à peu près tout. Mais c'est voilà, voyager tout seul, ça me permettait
C'est comme mes respons en espagnol, hein. Una cerveza, por favor.
Non, mais l'hongrois, c'est terrible parce que t'as pas de racines.
Oui, c'est très difficile.
Indo-européenne, comme le.
Non, c'est du finno-hongrien, hein, donc voilà. C'est comme le finlandais, ouais, et on a rattaché à une époque basque. Aussi. Mais ça, c'est plus sujet à caution. Donc tu parles quoi? Tu parles anglais, espagnol,
portugais et français.
D'accord.
Français, c'est de la triche, ça compte pas.
C'est déjà bien.
Portugais du Brésil, je précise. Mais voilà, du coup, c'est vrai que voyager tout seul, ça permet de pas s'enfermer justement dans la pratique de sa propre langue qu'on connaît déjà, et de se forcer à
aller. Oui, t'as pas le choix. Voilà. Il faut que tu parles.
Sauf si, justement, après, moi, quand je voyageais seul et puis que j'étais pas encore assez à l'aise avec la langue pour me permettre d'aller voir d'autres personnes qui parlaient pas la langue du pays, j'évitais les personnes qui parlaient français, qui parlaient anglais, parce que je sentais qu'en fait ne pas pratiquer juste pendant ce laps de temps, en fait ça me faisait reculer, en fait. Mais voilà, du coup et c'est vrai que c'était la Hongrie, là c'était après tous les pays qu'on a traversés, c'était l'une des premières fois où en fait je parlais pas la langue des pays, puis il y avait trop de pays différents et je parlais pas la langue des pays, donc il y en a quelques-uns, on pouvait l'Allemagne, la Hollande et puis l'Autriche, on pouvait se faire parler, comprendre tout à fait avec l'anglais.
Oui, ça, c'est pas un problème.
Mais par contre, ils parlent quasiment pas anglais en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie, et puis en Italie, pas trop non plus. Après, l'italien, je le comprends, j'arrive à me faire comprendre en espagnol, ça fonctionne à peu près. Mais voilà, du coup c'était un peu bizarre. Effectivement, je pense que là c'était bien d'être avec quelqu'un, parce que tu te mûres un petit peu en toi, parce que tu peux pas parler avec les gens vraiment. Et là, ça me fait pas peur de partir tout seul en Amérique du Sud, parce que
je parle espagnol.
Portugais, le portugais me servira pas tellement, parce que je suis déjà allé au Brésil il y a 3 ans. C'est pas trop au programme, parce que le Brésil, la vélo, c'est assez difficile quand même. Les infrastructures les routes sont très dangereuses, et puis le pays est cher. Et donc voilà, pour l'instant, c'est pas trop trop au programme, même si j'aimerais bien y retourner.
Comment tu fais pour acheminer ton matériel en Amérique du Sud ?
Bonne question. Je me suis documenté un petit peu sur la question. Au début, je me suis dit, je vais le démonter et puis je vais le foutre dans une valise, quoi. Et donc j'étais allé voir Alvaro, l'un des mécaniciens du recycleur, qui lui est chilien. Et quand il retourne une ou deux fois de l'an au Chili, il le met dans une valise et il a fait un système de coupleur au niveau du tube horizontal et diagonal du cadre. Donc c'est des bagues qui vont venir avec un outil spécial se desserrer et ensuite désolidariser le cadre en deux parties. Et donc ça, c'est pas mal pour vraiment minimiser l'espace.
Il a coupé son cadre, donc.
Voilà. Et en fait, c'est un cadre qu'il a fabriqué lui-même. Donc il est soudeur en plus d'être mécano. Et donc il
d'être beau. Ça m'énerve, ça.
Il fabrique des cadres lui-même. Et donc là, il a, il avait fait ça, un de ses prototypes, il avait fait un coupleur. Mais même avec mais ça,
ce système, il existe pas simplement sur le vélo de Lavaro. Je l'ai vu également sur un tandem. C'est le tandem de Florent.
Oui, souvent les tandems. Ils
Flo, un copain lillois, l'organisateur de la balade Vesveltleren. Oui, arrête de me dégoûter. et du coup, lui, le tandem qu'il a choisi, qu'il a fait fabriquer pour lui et sa compagne, justement, est équipé de coupleurs pour pouvoir l'utiliser.
Ah oui, non, mais il a pas du tout le monopole du coupleur. C'est juste qu'il a utilisé un système existant pour à ses fins. Et du coup, même avec ça, avec une valise, une hard case qu'il a trouvé, il est obligé de dérayonner sa roue arrière pour que ça rentre complètement. Et donc il la dérayonne en France et il la re-rayonne et il la remet en tension sur un pied de centrage au Chili. Donc voilà, c'est un petit peu
c'est un peu contraignant.
Un peu contraignant en termes de temps et puis lui il est mécano, mais c'est pas à la portée de tout le monde de re-rayonner une roue et de la mettre en tension correctement.
Et quand même, tu sais avoir accès à un pied quand t'arrives dans un pays que tu connais
c'est
pas.
Ouais. Parce que lui il retourne chez lui. Il est chez lui en France et il est chez lui au Chili.
Voilà.
Donc ouais, c'est un peu compliqué. Et du coup, je me suis documenté et je suis tombé sur un couple. Alors je sais plus d'où ils étaient, mais ils partageaient leur expérience du voyage à vélo et transport en avion avec une grande pochette plastique. Alors vous me dites comment.
Moi, j'avais vu des gars juste avec des surtubes en polystyrène, ouais, en effet, qu'emballaient le truc.
C'est ça. Et après, bah, tu peux effectivement le coupler avec ça, avec des protéger un peu les tubes avec du l'espèce de mousse de chauffage, des tubes de chauffage. Mais alors du coup, eux, ils avaient fait le test et moi, j'étais vraiment dubitatif comme eux quand ils ont découvert cette technique, de se dire mais juste une pochette plastique, c'est pas du tout protégé, c'est fragile, même la pochette en elle-même, c'est fragile, ça va jamais le faire. Et en fait, si. Et donc, je vais expliquer plus tard les détails de pourquoi ça marche, mais ce qui est cool en plus, c'est qu'il y a juste besoin de descendre la selle, de tourner le cintre à 90 degrés, de dégonfler un peu les pneus. Par sécurité, normalement, c'est des pneus qui contiennent beaucoup beaucoup d'air, comme des pneus de voiture ou de tracteur, qui vont être sujets à augmenter de pression.
Ah oui, avec l'altitude.
Ouais, jusqu'à, par exemple, un pneu qui va tenir maximum 5 bars. C'est, par exemple, ceux-là, c'est à 5 bars. S'ils sont exposés à une haute altitude, ils peuvent monter jusqu'à 5, 6 en théorie. Et du coup, ils pourraient exploser.
Donc, ouais, c'est négligeable sur les pneus de vélo quand même.
Voilà, c'est ça. C'est des pneus, des gros pneus qui contiennent beaucoup, beaucoup d'air.
Bon, mais par sécurité. Ça coûte pas grand chose de dégonfler le pneu et de le gonfler à l'arrivée.
Après, tu peux simplement dire ils te demandent si tu l'as dégonflé. Ils ont rien pour le vérifier. Tu dis oui, j'ai dégonflé. Voilà.
Bon, ça prend 2 minutes et de toute façon, t'as une pompe avec toi, je suppose.
Oui, après, pour remonter de 4 à 5, c'est quand même un peu compliqué avec une pompe à main. Ça faut des sacrés biscottos.
Lésine, mec, lésine.
Oui, alors.
Tu arrives avec une lésine à.
Je monte à 7, moi.
Ouais. Ah ouais?
Ta lésine l'autre fois, elle m'a démonté mon obus de valve. Donc.
Putain, pas mal. Et donc, du coup, pendant que.
Je t'arrête. Ton obus de valve et le mien, en fait, ils sont niqués. C'est juste pour ça. Parce que après, j'ai fait le gonflage du surly, ça marche très bien.
Parce que c'est des valves Schwab de merde, là, et que.
Commence pas à critiquer Schwab. Là.
Ouais. Ça, c'est parce que tu gonfles pas tes pneus le matin en partant au boulot. Il y a l'obus de la valve qui part au milieu du garage, t'es en retard, tu le cherches et. voilà. Plus jamais, ouais.
Moi, je me suis retrouvé à Gerland, au milieu de l'herbe, à chercher mon obus.
On les a tous eu, ces chambres à air pourri. Hein.
Mais non, c'est à cause de sa lésine qui a accroché l'obus.
Alors, mais du coup, je reprends, j'interromps ce magnifique débat sur les valves Schwalbe pour reprendre un petit peu les caractéristiques de ce mode de transport avec pochette plastique. Donc, du coup, c'est assez peu demandant en démontage. Il y a juste aussi dernière chose, le démontage, c'est recommandé, démontage du dérailleur arrière et de le protéger un petit, parce que c'est vraiment une excroissance du vélo, qui est même en faisant tomber le vélo de sa hauteur, on peut tordre
la patte et
si ça tape sur le dérailleur.
C'est ça. Et donc là, le démonter et puis l'accrocher à la base droite.
À la base droite
avec. Alors eux, ce qu'ils avaient mis, c'était une grosse bouteille plastique.
Pour que ça enveloppe la base et le derrière.
Et après, il l'avait fermé avec du scotch. Ou tape, pas mal, quoi. Pas mal. Et pas mal, la petite pompe. Et donc, du coup, voilà, c'était quand même pas mal au niveau du temps. Parce qu'avant ça, il faisait démontage et empaquetage de chaque pièce qu'ils avaient démonté du vélo. Ils mettaient une heure et demie grosso merdo au départ et à l'arrivée. Donc c'était assez relou. Et même pas 20 minutes, 15-20 minutes pour le plastique. Et alors du coup, pourquoi c'est une bonne solution en termes de transport vis-à-vis les bagagistes, voilà.
Moi je dirais que c'est parce que du coup c'est posé au-dessus de toutes les autres valoches.
Exactement.
Et que ça prend pas de contraintes.
Voilà, alors en fait le truc c'est que c'est posé au-dessus parce que c'est assez aléatoire comme forme, contrairement à une boîte.
Ouais.
Donc ça va être impossible de l'empiler en fait. D'empiler des choses par-dessus. S'ils essaient de faire ça, ça va être tout bancal et tout va se péter la gueule. Donc ils vont juste pas le faire. Et donc il y a rien qui va mettre de la pression dessus et ça va pas abîmer le vélo.
Ça, en fait, ça bénéficie de l'amorti des valoches en dessous surtout. C'est
voilà.
Truc de cancre là, ça.
De profiteur. Hein.
Juste une aparté. À propos du dérailleur, t'as une patte de dérailleur qui est soudée sur le cadre ou c'est une patte rapportée, patte fusible?
Non, pas de patte fusible. C'était un cadre assez ancien. Ouais. Voilà, donc c'est une patte directement soudée sur la sur
donc
le cadre.
Tu la pètes.
Oui,
c'est un single speed.
Alors, c'est
non, après il y a toujours la possibilité de mettre justement. Alors après c'est un peu compliqué avec des pattes verticales, mais il y a toujours la possibilité de mettre une patte rapportée, patte ancienne.
À l'ancienne, oui.
Mais avec un filetage quand même en bas.
D'accord.
Voilà. Mais ouais, donc c'est possible d'adapter, mais c'est du sauvetage.
Oui, c'est de l'adaptation. Mais après sur une patte en acier, sur un cadre en acier, en général, avant de la casser, tu vas la tordre,
tu vas pouvoir la redresser,
pas forcément très proprement, mais de quoi pouvoir rentrer.
Et puis ça va pas trop la fragiliser de la redresser une fois, deux fois, trois fois, contrairement à l'aluminium.
le mec une fois, deux fois avec la quinte.
Et donc du coup, il y a ça, il y a le fait qu'ils pourront pas empiler des choses par-dessus. Le fait que, de par le fait que c'est un peu aléatoire comme forme, ils vont pas pouvoir le prendre tout seul.
D'accord.
Comme une grosse boîte.
Oui, et puis voilà, ton vélo, même nu, il fait 15 kilos, c'est quand même.
C'est ça, c'est assez lourd. Et en plus, il y a pas de poignet, c'est juste un grand sac Donc ils vont se mettre à deux pour le transporter. Donc ils vont être, de par le fait, un peu plus doux avec le paquet. Et surtout, vu que c'est transparent, ils voient que c'est un vélo, ils vont. Ça peut paraître un peu bizarre, mais
pas courant, donc ils vont faire attention.
C'est ça. Et en fait, on voit beaucoup de vidéos des bagagistes qui balancent des trucs, mais sans aucun aménagement. Mais c'est parce que ils sont un peu gavés de leur truc, et puis ils voient des boîtes et des boîtes et des boîtes. Ils savent pas ce qu'il y a dedans. Même s'il y a marqué fragile dans tous les sens,
il peut y avoir n'importe quoi.
Ils s'entamponnent l'oreillette.
D'ailleurs, j'ai une question. Quand tu mets ton vélo dans une boîte, qu'est-ce que tu fais de la boîte à l'arrivée?
C'est ça, il y a aussi ce problème-là. Voilà, le truc c'est que faut trouver une consigne genre à l'aéroport ou
faut repartir du même endroit.
Du même endroit aussi parce que moi j'arrive au sud et je repars au nord.
C'est ça.
Donc je vais pas me trimballer soit une sacoche de transport. J'en ai une que j'utilise en France, que j'ai acheté chez Decat.
Oui, mais ça prend vachement de place.
Ouais, moi aussi j'en ai une, mais ouais, c'est clair quand je pars ça prend une demi sacoche.
Ça fait le poids de ma tente, on dirait un cartable d'écolier le machin. Même plié c'est pas faisable. Donc ça c'était exclu et alors que la pochette plastique tu peux la plier et c'est même te sert de bâche pendant le voyage, tu peux la plier, elle te prend pas beaucoup de place, pas beaucoup de poids.
Ou si t'en as pas besoin, enfin la balancer.
Voilà. Après, moi, je suis toujours
dans
l'esprit partisan
de la récup
et surtout quand c'est du plastique, que c'est un déchet qui pourra pas être renouvelé, pas être valorisé, d'essayer de le garder le plus longtemps possible, en fait, d'en faire quelque chose le plus longtemps possible, et pas de pas racheter une pochette, voilà. Et du coup, d'ailleurs, il y a une boîte en fait qui fait sur Wiggle, on peut les trouver des sacs exprès pour le transport en avion.
D'accord.
Voilà. Donc ça commence à se démocratiser aussi. Il y a même des compagnies aériennes qui sont au courant, qui le
prennent comme bagage valide, enfin qu'ils.
Ouais, voilà, qui en parlent, qui le.
Ah, qui le mettent en avant.
Qui le mettent en avant sur leur site. Et donc du coup, ça c'est vraiment positif. Et alors. Il y a un cyclotouriste qui m'a dit, lui qui m'a conseillé que c'était possible aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu dans les aéroports, il y a l'espèce de
pour filmer les
on pose sa valise
pour filmer les valoches là, ouais.
C'est ça. Et donc moi je me suis dit ouais peut-être, mais en fait ça se trouve ça fait un peu comme du cellophane, ça se colle sur lui-même en fait.
Ouais.
Et en fait pas tant que ça. Et apparemment, lui, il m'a dit, je l'ai réutilisé je sais pas combien de fois. Et tu peux emballer ton vélo aussi comme ça.
Alors oui, tu peux le dérouler et t'en resservir plusieurs fois.
Ouais.
Mais pas autant qu'une bâche en plastique, à mon avis.
Ne ronronne pas dans le micro, s'il te plaît. Et donc voilà, mais moi je pense que je vais plus partir sur une vraie pochette et ensuite la fermer avec un petit peu de duct tape. Ouais. Et d'ailleurs, toujours dans l'esprit de la récup, plutôt que d'en acheter une sur Wiggle, bon c'est pas très onéreux, hein, c'est une quinzaine d'euros, mais
ah oui, c'est vraiment
peu cher. Oh, plus cher. Mais d'aller carrément, alors j'ai pas encore fait le test, mais j'ai deux magasins de literie juste à côté de chez moi et les grands sacs en polyane.
Ouais. Sacs d'emballage de matelas,
de conditionnement de matelas. Alors après, quand ils les vendent neufs, ils vendent en général avec encore emballé. Donc peut-être pas le magasin, mais voir avec un client, un livreur ou un client, je sais pas.
Ouais, ne serait-ce que faire un tour dans une déchetterie, ça se trouve tu vas
aussi.
Trouver.
Ouais. Mais voilà, du coup, je pense que ça se peut se récupérer très facilement. Et donc voilà, moi ça va être comme ça que je vais emmener mon vélo en Amérique du Sud. Et après,
je me posais moi une question. Au niveau de l'enregistrement des bagages, ça pose pas, il y a pas de problème de dimension.
Non.
Parce que après, là, on est sur des dimensions complètement hors normes.
Ouais. Alors après, ça dépend des compagnies aériennes. Il y en a certaines où tu dois passer effectivement en bagages surdimensionnés, mais tu vas pas payer un supplément énorme par rapport à ce que ça te coûterait.
Parce que c'est pas lourd en fait.
Tant que t'es encore dans les limites de poids.
Ce qui coûte aux compagnies, c'est le poids en fait. Ouais.
Ouais. Parce qu'en fait, il y a alors. La compagnie.
Ce qui coûte, c'est le poids, mais il y a quand même des compagnies. Ce qui peut. Là où ils peuvent te taxer quelque chose.
Ils non, mais c'est sûr, EasyJet, je pense que oui. si tu déclares une crotte de nez, ils vont te facturer, c'est sûr. Mais,
c'est ça. Mais du coup, voilà, ça dépend vraiment des compagnies. Et par exemple, quand j'étais allé au Brésil, c'était avec la TAP Air Portugal. Et il y avait droit à 2 fois 20 kilos de base. Donc voilà, du coup. J'aurais pu le faire comme ça si je voyageais avec la TAP. J'ai mes sacoches qui font une vingtaine de kilos et puis mon vélo dans la sacoche qui font dans le sac en plastique qui font une vingtaine de kilos aussi. Ça passe à peu près. Et après, des fois ils te font, si justement c'est en surdimensionné, ils vont peut-être te faire payer 60€ de plus. Ça dépend encore des tarifs applicables selon les compagnies. Mais en général, ça arrive que ce soit gratuit. Le transport, il y a des compagnies qui le font. C'est plus des compagnies américaines, enfin nord-américaines. Mais sinon, ça peut aller jusqu'à 130€, 200€. Mais moi, je préfère même payer un petit peu plutôt que d'avoir acheté un vélo là-bas, quoi.
Bah, ça se comprend.
Ah, c'est là qu'ils l'ont fait.
Oui, c'était un copain de vélo taf Transhumance qui s'est fait des grosses vacances aux États-Unis en famille. Alors. Ils avaient fait le calcul, ils n'avaient pas les vélos qu'ils voulaient pour le truc, et ils ont commandé des vélos aux États-Unis. Ils ont réceptionné en arrivant, je sais plus où. Donc c'était des tandems pliants. Bon, je me souviens plus du modèle.
Tandem pliant, dis
donc. Ouais. Donc qu'ils avaient commandé. En fait, c'était des modèles aussi où ils pouvaient avoir le pédalier du stalker. Non, c'est comme le passager du temps. Enfin, pas le passager parce qu'il est actif quand même.
C'est derrière, tu veux dire.
Ouais, qui pouvait être réglé en hauteur. Donc pour les enfants, comme ça, les enfants pouvaient parce qu'ils étaient. Enfin, ils auraient pu rouler avec leur propre vélo, mais pour ne pas acheter 4 vélos. Donc c'était des vélos, enfin des tandems spéciaux qui étaient justement conçus pour le voyage avec le
des
fait
murs.
Qu'ils soient pliants et la possibilité d'avoir un pédalier réglable en hauteur.
D'accord.
Et donc ils sont partis, ils ont commandé les vélos, ils ont réceptionné sur place avant de faire leur trip. Et puis pour le retour en Belgique, là ils ont
emballé,
ramené en Belgique.
D'accord.
C'est la logistique.
Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que tu nous dis, c'est que finalement, c'est pas insurmontable, loin de là, d'emmener un vélo en avion, quoi.
Voilà.
Il faut s'organiser, mais globalement,
c'est possible.
C'est pas forcément, forcément plus compliqué qu'en train.
Ouais. Moi, ça me faisait un peu peur, effectivement. Là, je me disais, je commençais un peu à flipper, à me dire, putain, comment je vais faire pour l'emmener dans l'avion. Et puis, j'étais vraiment content de tomber sur ce forum, enfin, sur ce site. Après, ils disaient ils ont quand même eu un tout petit peu de casse. Alors, c'est vraiment minime. Hein. Il y a une fois où ils ont un peu de casse, ils ont eu une fixation de garde-boue cassée.
D'accord. Quelque chose de négligeable, quoi.
Voilà. Donc, tu rafistoles un peu, il y a moyen que ça passe. Donc après, à tester, je vous ferai le retour bientôt. Vous pourrez le voir sur le site, sur mon blog de voyage.
Et puis, on t'invitera à venir nous faire le retour d'expérience.
Tu prévois du suivi un peu en live
Tu prévois les diapos
Jamais de proche.
Et ouais, bien sûr. Bah du coup, j'ai monté un blog hosté chez Blogspot pour tenir au courant de mes aventures et mes aventures. Et alors, j'emmène pas d'ordinateur. J'emmène le smartphone. Quand il y aura du Wi-Fi, je peux le mettre à jour. Ça se fait aussi sur smartphone. Ça passe. Un peu moins agréable, mais ça se fait aussi avec. Après, j'emmène aussi, je pourrais filmer et prendre des photos avec le smartphone. Et j'ai aussi une GoPro avec un pied Gorilla. Je sais pas si vous connaissez.
Oui. Truc qui s'accroche de partout. Là.
Voilà, avec c'est plein de petites perles qui sont modulaires, qui sont accrochées les unes aux autres bout à bout. Et puis au bout, t'as des petites. Ces perles-là sont en caoutchouc. Et c'est assez fort. On peut vraiment l'accrocher à peu près n'importe où ou le stabiliser sur n'importe quel terrain. Et donc pour faire des prises de vue comme ça en rapide en voyage à vélo ou voyage tout court, ça c'est pas mal. Alors après les vidéos, peut-être je pourrais poster quelques rushs, des vidéos comme ça
non montées, ouais.
Non montées sur le moment, mais après je ferai sûrement un montage, un show reel à la fin du voyage au retour, quoi.
Et ben ça donne envie tout ça.
Mais ouais. Bah écoute, ouais, je pense que on va déjà prendre rendez-vous pour que tu reviennes une fois que t'auras fait tout ça.
Ouais, bah du coup le retour, je sais pas exactement, je prévois donc ça va être entre 10 000 et 12 000 kilomètres, donc je me bloque un an à peu près.
Minimum. Ouais.
Voilà. J'ai pas de date de retour pour l'instant, j'ai quasiment bloqué la date de départ, mais le retour est pas prévu pour l'instant, on verra.
Bon, je pense que là de toute façon le chat de Proc est tombé amoureux, donc tu vas être obligé de l'emmener.
Alors, ouais.
Accroché.
Hors de question.
Ok, bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Merci de cet accueil, c'était très sympa.
Merci, c'était très instructif.
Je pense qu'on va clôturer là.
Oui, je pense que là, vu l'heure qu'il est, le temps d'enregistrement, on va peut-être pas rajouter des dossiers.
Non, on va rentrer. Personne n'a de coup de cœur cette fois-ci? Musicien bizarre qui ferait des saloperies avec un vélo, par exemple?
Non, pas à chaque fois.
Ah, bon, ok.
De toute façon, j'ai déjà gardé ça pendant 3 ou 4 mois avant de vous le sortir. Je vous garde les coups de cœur pour une prochaine fois.
Bon, merci à tous. Merci à vous deux. Merci à toi, merci. Félix. Comme d'habitude, on vous postera les liens
sur le billet
pour que vous ayez toutes les infos des news.
Tous les liens des news.
Exactement.
Et puis, le lien du blog de Félix, bien entendu.
Voilà. Et tous les infos.
Encore tout à fait complet, mais voilà. C'est en cours.
Non, mais voilà, comme ça les gens verront le blog et puis pourront revenir de temps en temps voir les nouveautés.
Ok. Ouais. Et puis, ouais, tous les liens pour nous contacter, nos Twitter,
comme
le mail.
Voilà, enfin. Pour Cyclocast, Facebook / Cyclocast, @Cyclocast, patati patata, enfin.
Voilà. Nos différents Twitter, tout ça.
Twitter et tout. Comme à chaque fois.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt, les auditeurs.
Merci, bonne à bientôt.
Salut.
Salut. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo. Tu n'auras plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Toi, contrairement à tous les géants de la route, tu prendras le temps de boire et de casser la croûte. Tu vas pédaler tranquillement, toujours pépère, et découvrir les joies de la vie au grand air. Fais du vélo, fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo.